Vous aussi, vous serez édifiés par le message de Dieu si vous laissez le Saint-Esprit révéler à votre cœur les profondeurs de la parole, telles qu'elles furent transmises par le Seigneur lui-même à son prophète. Que Dieu vous bénisse à l'écoute de cet enregistrement.
Vous trouverez un message du prophète de Dieu William Marion Branham. Ce message s'intitule « La divinité expliquée » et il fut prêché le 27 avril 1961 dans un déjeuner de serviteurs de Dieu à l'hôtel Edgewater Beach à Chicago, Illinois, États-Unis d'Amérique du Nord. Voici donc ce message de notre précieux frère William Branham. Merci, frère Carlson. Je vous salue tous, frères et sœurs qui êtes dans le Seigneur. Quelquefois, je me lève un peu à contre-cœur quand j'écoute tous ces merveilleux témoignages et autres, comme ce fut le cas ce matin. Et puis, tous ces concitoyens dans la souffrance et la persécution, comme nos frères et sœurs baptistes y sont passés. Vous savez, j'étais moi-même autrefois un baptiste missionnaire, et je sais ce que cela signifie quand vos gens, j'ai eu à subir la même chose. Mon propre peuple me mit dehors, et ils pensaient qu'ils voulaient me renvoyer parce que j'étais devenu fou. Et j'ai découvert, vous savez, je dis cela habituellement d'une manière plutôt détournée, si je suis fou, laissez-moi dans la paix, parce que je suis plus heureux de cette façon que je ne l'étais étant saint d'esprit. Ainsi, c'est une sorte de petite philosophie que je tiens de moi-même. J'ai certainement aimé être ainsi tout ce temps parmi vous. Et là-bas, ce petit frère de l'Église de Christ, comme nous avons l'habitude de l'appeler, ou Campbellite, je me rappelle qu'ils étaient vraiment de durs adversaires de nos réunions au début, quand nous avons commencé. Mais, vous savez, nous en avions une fois, nommé Paul, qui était de la même trempe que ceux-là, et il est devenu l'un des nôtres. Aussi, je pense que ce à quoi il regarde normalement, c'est la vie que vous vivez. Vous savez, il vaut mieux que je vive un sermon que de m'en prêcher un tout le temps. Il y a quelque temps, un grand prédicateur, un homme très bien du plein évangile, vous le connaissez tous, je suppose, c'était le révérend Booth Clyburn. Il prêche l'évangile dans 7 langues différentes. C'est un géant intellectuel. Et un jour, nous marchions ensemble, lui, frère Moore et moi, et nous discutions de quelque chose. Et j'étais tout à fait de l'autre côté opposé à lui. Et il me regarda et dit, « Vous ne connaissez simplement pas votre Bible, frère Branham. » Oh, vous savez comment frère Booth peut le dire. Je dis, c'est vrai, frère Booth, mais Dieu soit loué, je connais très bien son auteur. Vous savez, la vie éternelle, ce n'est pas de connaître seulement sa parole, mais c'est de le connaître lui qui est la vie. Que je connaisse ou non sa parole, si je le connais lui, c'est certainement cela la vérité. Et ce matin, je serrai la main de toute cette belle association de serviteurs de Dieu. Ainsi là-bas, je n'ai pas l'intention de mettre qui que ce soit en évidence, mais cet homme de couleur qui est entré, un frère, il s'est assis là-bas. Je dis à mon secrétaire ici, voilà un vrai chrétien. Il me rappelait tant Elder Smith, qui était d'une église de Dieu en Christ, je crois. J'ai tant prêché pour eux là-bas, et je peux me le remémorer juste maintenant. Il ressemblait un peu au frère ici, mais seulement il avait une sorte de petite moustache grise. Et j'étais entré par la porte de derrière, et je n'oublierai jamais l'expression qu'avait d'ordinaire ce vieil homme, regardant en haut, tandis que tous les saints chantaient dans l'église, vous savez. Et il y avait une petite fille qui avait l'habitude de se tenir dans le coin, et mon chant favori était « Exaltez-le ! » Ils tapaient tous des mains, vous savez, à la façon des pentecôtistes. « Exaltez-le ! » Oh ! Ils m'aimaient et je les aimais. Et quand nous entrions, lui, il avançait sa tête sur le pupitre comme cela. Il les observait tous, vous savez, il disait « Entre, Elda ! Laisse ton chapeau tranquille !» Et ce frère ici, Oh, j'ai appris qu'une de mes chanteuses favorites du gospel est sa femme. Et j'ai tout essayé pour arriver à faire chanter sa femme. Et alors, elle demanda de ne pas être appelée ici. Et je sais ce que cela veut dire. Mais je l'inviterai personnellement, si elle le peut, pour venir chanter. N'êtes-vous pas la sœur qui chantait un matin, lors de la réunion des hommes d'affaires chrétiens, Sheep Hoy? J'espère que ma femme montera cette semaine. J'aimerais qu'elle vous entende, parce que j'ai tellement vanté cela. Et si vous le manquez sur les bandes, nous allons arranger cela. J'aime cette bonne chanson. J'ai l'habitude de dire aux gens que je n'ai jamais pu chanter. Oh, j'étais un million de miles de cela. Mais je dis, si jamais une fois vous parvenez au ciel et que vous vivez dans votre grand palais, vous savez, là-haut, allez là-bas au pied de la colline, au fond des bois. Là-bas derrière, il y aura une petite cabane. Ce sera la mienne. Et un de ces jours, quand vous sortirez sur le porche, vous entendrez quelqu'un chanter debout, « Étonnante grâce, oh que doux en est le son, qui sauva un misérable tel que moi !» Vous direz, « Gloire à Dieu, le vieux frère Branham y est finalement arrivé. Ce sera moi là-bas, essayant de chanter. » À mes frères chrétiens, et à vous aussi, un frère qui nous fut présenté, je crois, ce matin, comme étant un prêtre de Bouddha, à vous tous, mes précieux amis, vont mes salutations. J'ai eu souvent affaire, toutefois pas tellement souvent, avec le peuple bouddhiste, et spécialement au Canada parmi les Chinois, et je les ai trouvés très doux et très affectueux. Je me souviens d'un petit bouddhiste du temple bouddhiste qui vint dans l'assemblée de Winnipeg et qui était aveugle. Il était très petit. C'est un charmant petit peuple, vous savez, de petites personnes très douces. Et il croyait certainement que Dieu est celui qui guérit. Et tandis que je priais pour lui, il répétait combien il aimait Dieu. Et tout à coup, ses yeux s'ouvrirent. C'était quelque chose de tellement merveilleux. Ainsi, nous apprécions chaque homme et chaque personnalité. Maintenant, je n'ai pas eu auparavant l'occasion de parler à Chicago. D'ailleurs, je ne veux pas essayer d'apporter un message déterminé, parce qu'il y a ici des pasteurs beaucoup plus capables que moi d'apporter un message. Mais après tout, vous n'êtes pas ici pour écouter un message. Cependant, j'ai pensé que cela pourrait être un moment des plus glorieux si je pouvais rencontrer tous les pasteurs de Chicago, de ce district-ci, et de faire plus ample connaissance avec eux, afin que nous puissions mieux nous connaître les uns les autres, certainement. Je remercie le Seigneur pour cette occasion qui nous est donnée, parce que je suis venu ici dans cette ville à maintes reprises, sous le parrainage d'une église et aussi sous le parrainage des hommes d'affaires chrétiens. Donc, sans avoir l'occasion de m'exprimer à cette association des frères. Et il y a tant de choses qui suivent un ministère comme le mien, des au-dedans et au-dehors, des up and down, à tel point qu'il serait parfois facile pour certains d'en tirer une impression fausse. Et je vais employer ces quelques prochaines et précieuses minutes à essayer d'expliquer les choses et de les rendre claires à mes frères, aussi claires que possible. Je suis insuffisant. Vous savez, je suis incapable de faire un discours qui pourrait paraître sensé à des hommes instruits comme vous, car je n'ai pas reçu d'instruction et cela me manque. Mais j'aime le Seigneur. Et peut-être que le Seigneur m'a donné un autre moyen pour sauver des âmes par un don divin. C'est pour qu'il puisse boucher la brèche provenant de ce que mes parents n'avaient pas pu me donner d'instruction. Je viens d'une famille pauvre de 10 enfants avec un papa malade et je n'ai pas eu la chance d'avoir une éducation. Mais à ma naissance, quelque chose arriva, une expérience que ma mère et mon père firent avec Dieu. Vous avez lu mon histoire. Et à cause de cela, j'essaye de prendre part à ce que vous faites, mes frères, pour attirer les pécheurs à Christ. Maintenant, je ne suis pas du tout superstitieux, mais toujours, avant d'ouvrir sa parole, j'aime parler un petit peu à l'auteur de cette parole. Pouvons-nous de nouveau incliner un moment nos têtes, s'il vous plaît? Notre précieux Père, tu es notre Dieu, et nous nous approchons de toi à cause de l'Évangile. Je suis ici devant tes enfants, tes pasteurs, mes frères, animés de la même foi précieuse. Oh, comme cela fait frémir mon cœur d'entendre ces hommes qui ont été mal compris et envoyés dans des institutions pour les fous à cause de l'amour du royaume de Dieu, et de voir comment tu appelles tes enfants dans les derniers jours. Et nous croyons sincèrement, Père, que nous vivons à la fin de la course, comme le prophète l'a dit dans l'Écriture, au temps du soir il y aura de la lumière. Et aujourd'hui, nous croyons que nous sommes les porteurs de cette grande lumière de l'Évangile que, par ta grâce, tu nous as permis d'envoyer jusqu'aux extrémités de la terre, là où ce réveil est allé. Et je te prie, Père, que de tout mon cœur, tu me laisseras exprimer à mes frères ce matin quels sont les motifs et objectifs de ma vie consacrée à toi, afin qu'ils puissent comprendre. Puisses-tu nous accorder d'avoir un amour parfait, une communion et une coopération parfaite pour tout le travail de l'Évangile, car nous le demandons au nom de Jésus qui pria pour que nous soyons un, comme lui et son Père étaient un. Nous croyons que c'est à cela que tous les hommes connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Amen. J'espère et j'ai confiance que je ne vous ennuie pas avec ceci, frères et sœurs. Mais je pense que j'aimerais mettre moi-même certaines choses au clair, afin que vous n'ayez pas à l'entendre dire par quelqu'un d'autre. J'ai expliqué ces choses bien des fois dans d'autres assemblées pastorales, mais c'est la première fois que je le fais devant le groupe de Chicago, et j'aimerais me faire bien comprendre à propos de ce que j'essaye de faire. Et dans ce vieil évangile béni, nous lisons ici au chapitre 26 du livre des Actes. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Voyez-vous? Évidemment ici c'est Paul qui parle, lui auquel nous aimons tous à nous référer, nous autres prédicateurs, parce que nous tous d'un commun accord, nous croyons qu'il était l'apôtre de l'église des païens, puisque Dieu l'a appelé pour être un témoin envers les païens. Son ministère avait été mis en question, et d'ordinaire, ce qui est inhabituel nous surprend toujours, et cela est mis en question. Je pense que je n'exagère pas, cela devrait être mis en question, et je pense que, parfois, des pasteurs sont tellement méfiants à l'égard des choses qu'ils entendent, et je crois qu'ils ont le droit de l'être, parce que si je comprends la traduction du mot « pasteur », cela veut dire « berger », et ainsi, c'est celui qui pourvoit la nourriture, c'est le meneur d'un groupe d'hommes et de femmes desquels le Saint-Esprit l'a fait surveillant, et il a le droit de savoir quel sort de nourriture reçoivent ses brebis et d'où cette nourriture provient. Je pense qu'il a un droit à cela, et si un pasteur ou quelquefois des gens paraissent être un peu soupçonneux, cela ne devrait jamais troubler personne. Cela devrait seulement apporter le respect au cœur d'un homme pour quelqu'un de cette importance qui mettrait cela en question. Et après tout, si vous n'êtes pas sûr que vous êtes dans le bon alignement, comment pourrez-vous jamais marcher par la foi? Si vous mettez dans votre esprit, maintenant, cela semble être de la psychologie, cela en est probablement et c'est juste, mais si vous pensez vraiment de tout votre cœur que vous ne pouvez pas vous lever de table, vous ne le pourrez probablement pas, vous voyez? C'est aussi simple que cela. Vous devez croire. Vous devez avoir la foi. Vous devez avoir de la confiance. Et comment pouvez-vous avoir confiance en quelque chose dont vous ne savez même pas où elle vous mènera? Comment est-ce que je pourrais circuler sur un chemin sur lequel je n'étais jamais allé auparavant, et cela à une vitesse de casse-cou, prenant les virages sans me soucier de ce que me cache le prochain tournant? Vous devez savoir où vous allez, ou alors vous ne savez pas circuler. Et voilà comment chacun devrait être. Alors, quand vous le voyez, cela vous est révélé, et vous savez où vous allez. Alors, plus rien ne pourra jamais vous arrêter. Et je pense que c'est ce que Paul essayait de faire comprendre ici à Agrippa. C'est pourquoi il leur dit ceci. Une fois, j'étais avec vous, j'étais l'un des vôtres. Et je suppose que si ce frère Baptiste pouvait aller à l'église Baptiste ce matin, lui et sa femme, cette parole pourrait être leur témoignage. Un jour, j'étais avec vous, ou bien l'église de Christ, ou bien le frère Campbellite, ici, ils iraient chez leur peuple, je crois qu'on les appelle d'un meilleur nom maintenant, les disciples de Christ, ils les appellent ainsi. Mais c'est vraiment tiré de la doctrine d'Alexandre Campbell. Et alors, l'Église de Christ sortit de chez vous à cause de la musique, n'est-ce pas vrai? Ah, s'ils pouvaient retourner chez eux, ils diraient, « Un jour, j'étais l'un de vous, l'un des vôtres. » Et Paul revint au roi Agrippa et Festus et il dit, « Une fois, j'étais l'un des vôtres. J'étais le pharisien des pharisiens. » Il grandit sous Gamaliel, le grand docteur. Il connaissait toutes leurs règles, tous leurs règlements, ce qu'il croyait, ce qu'il ne croyait pas. Et il dit, j'ai même persécuté l'Église de Dieu jusqu'à la mort. Vous voyez, il dit, la chose pour laquelle on me met en question, c'est celle à propos de quoi j'étais autrefois le persécuteur. J'ai toujours pensé que la mort d'Étienne avait été pour Paul un stimulant, parce que lorsqu'il vit luire ce glorieux regard sur le visage d'Étienne, et qu'il vit ceux qui le lapidaient le frapper à mort, il entendit Étienne dire, « Je vois Jésus assis à la droite de Dieu. » Et vous savez, vous pouvez tuer un messager, mais vous ne pourrez jamais tuer son message. Et ce message, même si Étienne était parti pour rester avec Jésus, son message subsista malgré tout, parce que Paul continua d'en parler. Alléluia! Il était le moindre parmi eux. Il n'était pas digne d'être appelé un des leurs, car il avait témoigné, il avait donné son consentement pour que soit supprimé cet homme pieux. Et par conséquent, Paul, comme tout homme devrait le faire devant les hommes, Paul reprend son expérience dès le commencement. Et alors, il se base sur les Écritures pour démontrer que ce qu'il faisait était scripturaire. Même si c'était contraire à leur croyance, il leur montrait quand même que c'était l'Écriture. Aussi, je pense, comme je l'ai dit souvent, mes frères, vous qui avez été dans les assemblées, si je suis trouvé, ou n'importe quel autre frère, parlant de choses qui ne sont pas scripturaires, nous devrions venir l'un vers l'autre et dire, cela ne se trouve pas dans la Bible, mais si c'est dans la Bible, vous pourriez avoir une interprétation différente. Mais si c'est dans les Écritures, c'est très bien. Or, Paul donnait son interprétation sur ce que le prophète avait dit, et ce que Moïse avait dit était en train de se passer. Et Paul rencontra Jésus dans une vision sur la route, et ce Jésus l'appela. Ceci n'aurait pas dû être une chose difficile à comprendre pour ces Juifs, lorsque Paul dit, « Très excellent Festus », et ainsi de suite. « Eh, serait-ce une chose étrange pour vous tous que Dieu ressuscita les morts ?» Parce que si tu sais ce que Dieu était autrefois dans les Écritures, tu saurais certainement qu'il est capable de ressusciter les morts. Alors, Paul leur raconta son expérience sur le chemin de Damas, ce qui s'y passa, pour leur faire savoir que ce Jésus, pour lequel il causait tant d'agitation, parce que lui, Paul, le prêchait, c'était le même Dieu qu'ils avaient servi tout le temps. Parce que c'était lui qui était dans le désert avec eux, lui qui les conduisait, étant cette lumière, le feu, la colonne de feu qui les conduisit. Et il apparut à Paul dans la même lumière de nouveau. Et cette lumière l'aveugla, il demanda, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il répondit, « Je suis Jésus que tu persécutes, et il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Il essayait de leur expliquer ce que c'était. Il essayait de leur enseigner que ce qu'il présentait au peuple, c'était que Jésus-Christ était le Messie, et qu'il était mort, et que Dieu l'avait ressuscité, et que c'était en accord avec les Écritures. Et maintenant, ce Jésus avait été élevé auprès de Dieu le Père, et Paul était un témoin de sa résurrection, et ses miracles, ses signes, ses prodiges, qui étaient étranges devant le peuple, ce n'était rien de nouveau pour un vrai croyant de l'Écriture, parce que la Bible en avait toujours parlé. Regardez donc dans les prophètes, combien autrefois il a été prophétisé sur la venue du Messie, et sur ce qu'il allait faire, disant dans Ésaïe chapitre 35, que le boiteux sauterait comme un cerf, et différentes Écritures auxquelles il pouvait se référer. Nous ne les avons pas relevées ici. Mais il se peut que nous y reviendrons et nous nous référerons au bref discours qu'il tint devant le roi, car il n'aurait peut-être pas été aussi patient avec lui que vous, mes frères, vous l'êtes avec moi. Alors, il était donc en train d'expliquer ces choses. Il essayait de leur dire que le même Dieu qu'il servait, et alors, il ajouta ceci, il dit, de la même manière, de cette manière qui est appelée une hérésie. c'est-à-dire une folie, voyez, de la manière qui est appelée hérésie, c'est la manière que moi, Paul, j'adore le Dieu que vous adorez. Voyez, de la manière qui est appelée hérésie. Je suis sûr qu'aujourd'hui, si nous nous tenions dans les anciennes églises auxquelles nous appartenions, tels les presbytériens, les catholiques, les baptistes et encore d'autres, nous pourrions apporter le même témoignage à ces gens qui disent qu'ils veulent, qu'ils aimeraient mettre ce frère dans un hospice psychopathique ou quelque chose comme cela. De la manière qui est appelée hérésie, c'est de cette manière que j'adore le Dieu de mon Père. Alléluia! Et quel grand témoignage cela était devant Agrippa, au point même qu'au milieu de son discours, Agrippa s'écria, « Ô Paul, tu m'as presque persuadé de devenir un chrétien. » Voyez comment il était capable de rendre claires les Écritures. Et bien que c'était contraire à sa propre synagogue, mais les Écritures étaient si parfaitement claires que Festus eut dire, « Tu m'as presque persuadé d'être comme toi. » Et Paul dit, « Je désire que tu le sois entièrement, à l'exception de ces chaînes dans lesquelles je suis. » Il désirait qu'il soit seulement un croyant comme il l'était. En d'autres termes, plaise à Dieu que tu vois la révélation comme moi, Paul, je la vois. Autrement dit, je désire que tu puisses faire cela. Je souhaite seulement que tu le veuilles. Festus lui alors, je crois qu'il avait un peu trop étudié celui-là, qu'il avait, vous savez, perdu la tête. Mais Paul lui fit savoir qu'il n'en était rien, qu'il savait où il en était. Et frère, ce matin, je dirais ceci, j'aimerais vraiment pouvoir incliner, non l'avis de Paul, mais seulement de manière à vous apporter un petit discours de base, parce qu'il y en aura peut-être beaucoup plus qui parleront ici ce matin, mais j'ai voulu profiter de cette occasion pour dire ceci. Maintenant, j'aimerais que toutes les différentes églises, comme je vous ai entendu les appeler, le temple de Bethel, les indépendants, les assemblées de Dieu et les différentes autres représentées ici, j'aimerais que tous ensemble, vous puissiez voir ce que je vois. J'aimerais que vous voyiez la vision que je vois. Alors vous auriez du ministère une compréhension plus claire. Quand je quittais l'église baptiste pour venir dans la Pentecôte, alors le docteur Roy et Davis, qui m'avait ordonné dans l'église missionnaire baptiste, me dit que j'avais eu un cauchemar lorsque le Seigneur m'apparut en vision et me parla. Et vous savez ce qu'était la notion de guérison alors? C'était à marée basse. Et je ne savais rien sur les pentecôtistes. J'avais entendu dire que c'était une bande de comédiens religieux qui se couchaient sur le plancher et qui bavaient comme des chiens enragés. Et il paraît-il, on devait les éventer et les ramener à la vie. Et toutes sortes de stupidités comme cela. C'est tout ce que je savais sur les gens de la Pentecôte. Et il me dit, le docteur Davis me dit, « Qui penses-tu va t'écouter ?» Je dis, « Si Dieu m'envoie, il y a quelqu'un quelque part vers lequel il m'envoie. » C'est juste, voyez, parce que j'ai dit, « Docteur Davis, il était aussi réel. Je me tenais debout et je le regardais. » Je dis alors, « C'est lui qui m'a parlé dans ses visions. » Je suis un grand croyant, frère, parce que Dieu ne se repent pas de ses dons ni de son appel. Je crois cela. Vous ne pouvez pas être quelque chose que vous n'êtes pas. Et toutes les fois que vous essayez de faire de vous-même quelque chose que vous n'êtes pas, vous jouez simplement le rôle d'un hypocrite. Et alors, que Dieu me fasse mourir plutôt que d'être un hypocrite. Voyez-vous? Laissez-moi simplement être ce que je suis. Et alors, que je le sois sans détour et clairement, et de cette manière, tout le monde le saura, et vous saurez exactement où vous en êtes. Et maintenant, comme vous le savez, je ne suis pas allé beaucoup à l'école. En théologie, je suis le plus médiocre qu'il y ait ici, et je suppose que vous savez tout cela. Et c'est tout juste si je peux m'appeler un prédicateur, parce que je ne suis pas allé à l'école biblique, je ne connais pas les mots, etc. Mais le peu que j'ai en fait de connaissances, je le sais par la grâce du Seigneur Jésus. Et j'essaye de partager cela avec tous mes frères partout, de le partager avec eux. Mais quand je quittais l'église baptiste, qui fut la seule église dans laquelle j'entrai jamais et où je fus ordonné, car je fus ordonné en 1933 dans l'église missionnaire baptiste de Jeffersonville, Indiana, et elle est membre de la Convention baptiste du Sud. quand je me retirai, l'église baptiste est donc une église souveraine, nous savons tous cela. Vous pouvez prêcher sur tout ce que vous voulez si votre assemblée le tolère. Vous pouvez prêcher ce que vous voulez. Et j'aime cela, voyez-vous, parce que je crois que c'est la doctrine des apôtres. Car la tête, le berger, le pasteur, c'est dans l'ordre de l'église le plus haut. Nous comprenons bien que c'est le pasteur. Et si quelque évêque ou n'importe qui d'autre veut ôter au pasteur la révélation de la parole, alors comment Dieu pourra-t-il jamais agir dans son église? Voyez, tout simplement, vous n'avez pas à le faire. Ainsi, quand je sortis de là, je fis la connaissance du premier groupe, là où eut lieu la guérison de la petite Betty Daugherty à Saint-Louis dans le Missouri. Et ce pasteur appartenait à l'église unie de la Pentecôte, ou à l'église pentecôtiste du nom de Jésus. Et sa petite fille fut guérie. Frère, franchement, je pensais que ce qui faisait de lui un pentecôtiste, c'était parce que ces gens se donnaient eux-mêmes le nom de Jésus seul. Et moi, je pensais que ce qui en faisait des pentecôtistes était le fait qu'ils se nommaient eux-mêmes ainsi. Et pour moi, toute la différence était là. Ensuite, de là, j'allais à une grande réunion à Saint-Louis, celle dont vous pouvez voir la photographie sur le livre. Nous occupions le Kiel Auditorium. Et les premiers soirs, il y avait une foule compacte de 14 000 personnes. Nous avons dû placer la police auprès des portes pour fermer les portes afin d'endiguer cette foule. Et ensuite, je suis allé dans l'assemblée de Richard Reed, dans ce vieux tabernacle béni de l'heure biblique à Jonesboro, qui faisait partie de la même organisation. De là, je suis allé chez le docteur G.H. Brown à la Victor Street 505 à Little Rock, Arkansas, dans la même organisation, et je me suis rendu à la côte ouest. Alors, j'ai découvert qu'il y avait là autant de divisions parmi les pentecôtistes dans leurs organisations que chez nous autres baptistes. Il y avait tant de différents. Il y avait les assemblées de Dieu, l'église de Dieu, et ceci et cela, et tout le reste. Et ils s'étaient séparés, ils avaient tracé de petites frontières, et tous les autres frères commencèrent à venir vers moi et à me dire, « Alors quoi, frère Branham, vous êtes un de ces Jésus seuls de ce groupe là-bas ?» Je dis, « Non, ce n'est pas moi qui me donne ce nom. » Ils dirent, « Pourquoi vous associez-vous à eux ?» Je dis, « Et après, cela ne fait pas de moi un Jésus seul, ce sont des frères. » Ils dirent, « Ce n'est qu'une bande de... Ce n'est qu'un repère de buse et des choses semblables. » Je dis, je vous demande bien pardon. J'ai rencontré là-bas des hommes vraiment pieux, des hommes de Dieu. Et je dis, je n'aime pas du tout vous entendre les traiter ainsi, parce qu'ils ne sont pas mauvais, comme vous dites qu'ils le sont. Ainsi donc, j'essayais de tenir aussi longtemps que je le pus sans plus rien dire. Alors je commençais à étudier ce qu'étaient leurs idées et en quoi consistait leur séparation et ce qui les séparait. Et je découvris que des deux groupes, l'un s'appelait Jésus seul et l'autre Assemblée de Dieu. Ils s'étaient séparés sur la question du baptême d'eau, l'un employant Père, Fils et Saint-Esprit et l'autre le nom de Jésus seulement. Alors je vis que de chaque côté, il y avait de grands hommes et des serviteurs de Dieu. Je pensais, ô Dieu, si je pouvais tous les voir surmonter ces choses et simplement aller de l'avant au lieu de tirer une ligne de démarcation et dire « Nous ne voulons pas avoir de communion l'un avec l'autre. » Mais je découvris que l'esprit mauvais était venu au milieu d'eux et qu'il était la cause de la haine et de la malice concernant des points litigieux qui avaient surgi parmi eux. Je pensais, c'en est arrivé exactement au point où le diable voulait que cela arrive. C'est juste ce qu'il veut. Aussi longtemps que vos fusils sont braqués l'un contre l'autre, il n'a pas besoin, lui, de tirer un seul coup. Aussi, finalement, on en arriva à étaler son jeu, à mettre les cartes sur la table. Et cela se passa à Seattle, Washington, en 1946 environ. Un matin, je fus emmené dans le hall d'un hôtel à un déjeuner avec quelques serviteurs de Dieu. Et je devais m'entretenir avec deux hommes principaux. L'un d'eux était le docteur Ness. Je suppose que vous, mes frères, qui êtes des assemblées de Dieu ce matin, vous vous souvenez de lui. Il était le surveillant du territoire du Nord-Ouest. C'était un homme important, intelligent, instruit, et il représentait dans cette réunion les assemblées de Dieu. Puis, il y avait le docteur Seism, de l'Église unie de la Pentecôte. Je pense que vous, mes frères de l'Église unie de la Pentecôte, vous vous souvenez de lui. Il était aussi un des superintendants des territoires du Nord-Ouest par là-bas. Je crois qu'il était responsable de ce district là-bas. Alors, ces deux hommes se rencontrèrent et je devais paraître devant eux parce que les lames commençaient à s'aiguiser de plus en plus et que cela devenait pour moi coupant de tous les côtés. Je pensais, que dois-je faire, Seigneur? Que puis-je faire? Eh bien, dirent-ils, vous devez prendre position pour l'un pour l'autre. Si vous voulez aller avec les noms de Jésus, vous devez être un nom de Jésus. Et si vous voulez aller avec les assemblées de Dieu, vous devez quitter les noms de Jésus et aller dans les assemblées de Dieu. Cela en arriva à un point tel que je dus en quelque sorte leur faire une petite démonstration. Je priais beaucoup ce matin-là avant de descendre. Je dis, ô Dieu, aide-moi, parce qu'il y a là des hommes importants, il y a là des milliers de prédicateurs, et tu m'as envoyé ici-bas avec un ministère, et ces deux-là sont tes serviteurs. Et alors, je devrais jeter le peu d'influence que j'ai dans une organisation, alors que l'une combat l'autre, vous voyez? Je ne peux pas me sentir juste en faisant cela. Je ne pense pas que ce serait la volonté de Christ que je fasse cela. Je dis, ô Dieu, aide-moi, donne-moi quelque chose à faire ou quelque chose à dire. Et je n'avais personne qui était de mon côté. Je me tenais simplement là. Il y avait seulement le Seigneur Jésus et moi ce matin-là. Alors arriva le grand débat. Qu'allez-vous faire, frère Branham? Quelle décision allez-vous prendre? Je dis, ma décision est déjà toute prise. Ma décision, c'est de demeurer entre vous deux et de ne joindre aucune organisation. Et, je vous le dis, en mettant mes bras autour de chacun de vous, nous sommes frères, nous sommes des frères. Et je dis, j'ai essayé de lire tous les livres que j'ai pu pour voir en quoi consiste cette nouvelle issue. Le mot nouvelle issue est un nom qui était donné lorsque les frères de l'Église unitaire se séparèrent des assemblées de Dieu, note de l'éditeur. Et comment ils en étaient venus à se séparer, et de quelle manière cette séparation commença? Et je dis, les discussions et disputes qu'il y a entre vous, c'est cela même qui démembra le mouvement pentecôtiste en ce temps-là. Après la Pentecôte, ils commencèrent à argumenter, à discuter, à raisonner entre eux. Alors je dis, et voilà de nouveau une séparation. N'y aurait-il pas la possibilité d'avoir entre vous un moyen terme, mes frères? N'y aurait-il pas quelque chose qui puisse intervenir? Alors, ils ne voulurent pas ouvrir la bouche à ce sujet, parce que c'était très très tranchant, trop scabreux. Vous savez comment c'était il y a environ 15 à 20 ans, parce que ce groupe-ci était justement sorti de l'autre, et qu'il y avait beaucoup de désaccords entre eux. Aussi je dis, eh bien frères, voici ce que je vais faire. De toute façon, Dieu ne m'a jamais envoyé pour baptiser, il m'a envoyé pour prier pour ses enfants malades. Aussi vais-je prier pour les enfants de Dieu malades, et vous, serviteurs de Dieu, vous faites vos propres baptêmes. Je dis, maintenant j'aimerais vous demander quelque chose, simplement pour que vous compreniez bien. Je dis, frère Nest, ces gens du nom de Jésus, croyez-vous qu'ils aient reçu le Saint-Esprit quand ils parlent en langue et qu'ils font les mêmes choses que vous faites dans les assemblées de Dieu? Il dit, certainement, frère Branham. Je dis, frère Seism, croyez-vous que les assemblées de Dieu aient le Saint-Esprit quand ils parlent en langue et qu'ils pratiquent le baptême comme vous le pratiquez? Il dit, certainement, frère Branham. Je dis, maintenant la Bible dit que Dieu donne le Saint-Esprit à qui lui obéit. Or, qui lui a obéi? Qui lui a obéi? Lequel de vous deux lui a obéi? Dieu vous a donné aux deux le Saint-Esprit. Je dis, frère Saïsme, diriez-vous que frère Nest n'est pas le Saint-Esprit? Il dit, oh non! Je dis, diriez-vous que frère Saïsme n'est pas le Saint-Esprit? Oh non! Remarquez, les deux croyaient que l'autre avait le Saint-Esprit. Mais vous voyez, cela n'a pas de sens, frère. Cela n'a pas de sens. Et j'entendis parler de cela un peu plus tard. Mais je reviendrai là-dessus dans une minute. Les frères finlandais ici, après que j'eus quitté la Finlande, où Dieu nous donna, je crois, une de nos plus grandes réunions, il y eut le petit garçon mort qui ressuscita et beaucoup d'autres choses. À Stockholm, Suède, je rencontrai le frère Lévi Petrus de l'église de Philadelphie, lequel est un grand homme de Dieu. Et l'église de Philadelphie, frère Gordon Lindsay, qui était alors, je crois, je pense qu'il n'en fait plus partie maintenant, mais il appartenait aux assemblées de Dieu, et les assemblées de Dieu sont celles qui me soutenaient le plus pendant mes campagnes internationales. Voyez? et je pris seulement position, laissant les tranchants bien aiguisés de tous les côtés. Alors, je m'efforçais dans ces histoires de ne prendre parti pour aucun des deux, jusqu'à ce que nous puissions voir que nous étions frères, et que si nous nous rassemblions, c'était pour venir droit au fait. C'est pour cette raison, et avec un objectif précis que nous étions venus. C'est, vous devez premièrement éprouver vos motifs et vos objectifs. Découvrir tout d'abord quelle est la volonté de Dieu, puis trouver quel est votre objectif, et alors éprouver votre motif, et voir si votre motif est juste. Alors, comme Jésus l'a dit dans Marc 11, 23, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais aussi longtemps que dans votre cœur, vous doutez que ce soit la volonté de Dieu, ou si votre motif ou votre objectif est faux, comment cela va-t-il pouvoir se déplacer? Mais si vous savez que votre motif est juste, que c'est la volonté de Dieu, que votre objectif est juste, alors cela doit se déplacer. C'est tout, ou bien Dieu a dit quelque chose de faux. C'est la véritable raison pour laquelle, lorsque je monte sur l'estrade dans les différentes églises, personne ne m'a jamais entendu mentionner ces choses et ces questions litigieuses. Je les laisse de côté. Voyez, cela vous regarde. Je suis ici pour vous aider par un don divin à gagner des âmes à Christ. Vous voyez, cela ne fait aucune différence. Vous faites vos propres baptêmes. Mais alors, quand cela en vient, évidemment, j'ai été appelé de toutes sortes de noms. J'ai été appelé, je ne sais pas combien de fois, depuis le nom de Messie, fils de Dieu incarné, jusqu'à celui de démon. C'est vrai, de toutes sortes de noms. Mais, dans le fond de tout cela, je suis votre frère, un concitoyen du royaume de Dieu, travaillant avec vous tous pour le royaume, et cela est vrai. Maintenant, si cela vous convient et que vous pensiez que nous avons assez de temps, je voudrais vous dire comment nous avons délibéré de cela. Cela vous convient-il? Une minute seulement. C'est donc au sujet de frère Ness et des autres. Bien. Et il se peut qu'il y ait quelque chose qui puisse vous aider. Cela vous aidera à comprendre. J'ai écrit ici quelques-unes des choses dont je me suis souvenu, et aussi. Ils me demandèrent ce que je croyais au sujet de la Trinité, si je croyais qu'il y avait une Trinité de Dieu. Maintenant, frère, au moment où nous approchons de ce sujet, j'espère que lorsque ceci sera fini, nous serons les mêmes frères que nous l'avons toujours été. Mais je sens que je vous dois bien cela, car vos gens viennent à mes réunions, et je ne voudrais pas que l'un d'entre vous s'en retourne déçu. J'ai toujours dit aux personnes qui posent des questions par écrit, en dehors de ce que je prêche sur l'estrade, ici se trouve donc mon secrétaire, s'il me pose une question à propos de ceci ou de cela, je dis, demandez à votre pasteur, parce que s'il vous a conduit jusqu'ici, jusqu'à recevoir le Saint-Esprit, il vous conduira plus loin. Vous voyez, demandez à votre pasteur, parce que de petites choses comme cela sont une cause de confusion, et c'est pourquoi je laisse cela de côté, vous voyez. Maintenant, on a dit de moi que j'étais un adversaire des organisations. Or, je ne le suis pas. Je pense que les organisations sont magnifiques. Mais, quand le système de votre organisation est corrompu, voilà ce à quoi je m'oppose. Peu importe qu'on soit unitaire ou trinitaire ou quoi que ce soit, mais c'est le fait d'arriver au point où l'on dit systématiquement, nous, nous sommes les assemblées de Dieu. Et alors, qui est-ce qui est de l'autre côté de la rue? Oh, ce sont nos frères, ils s'appellent les pentecôtistes unis, bien, et qui sont là-bas? Oh, ce sont aussi des frères, les frères de l'évangile Four Square, évangile carré ou aux quatre angles. Oh, nous sommes de merveilleux frères, nous avons beaucoup de communion les uns avec les autres. Ah, et croyez-vous la même chose? Oh, oui, nous croyons. Enfin, qu'est-ce qui vous sépare? Eh bien, ces frères baptisent de cette façon, et ceux-là baptisent de cette autre façon. Là, ils baptisent le visage en avant, et cela baptise comme le font les frères en Afrique du Sud. Et ils se jetèrent sur cela, ils me demandèrent. Un groupe baptise trois fois le visage en avant, et les autres baptisent trois fois le visage en arrière. Je dis, où avez-vous trouvé cela? L'un dit, quand Christ mourut, la Bible dit qu'il baissa la tête. C'est pourquoi nous devons les faire tomber en avant. Et je dis, bien, et à l'autre groupe, et vous, ils dirent, avez-vous jamais enseveli un homme le visage par terre? Alors, vous savez quoi? Ils se séparèrent et ils firent deux groupes, deux organisations. Oh, frère, quelle pitié! C'est juste ce que le diable veut. C'est juste ce qu'il veut. Maintenant, voyez, il ne s'agit pas de la mission de la foi apostolique d'une part, ou des assemblées pentecôtistes d'autre part. Ce n'est pas cela. Il y a d'excellents hommes dans les deux groupes, comme il y en a ici. Mais vous voyez, il s'agit du système. C'est comme pour les catholiques. Ainsi que je l'ai souvent dit, si c'est un catholique qui dépend de Christ pour son salut, il est sauvé. Et c'est parfaitement juste. Et s'il dépend de l'Église, il est perdu. N'importe lequel de vous, mes frères pentecôtistes, savez cela. Si nous regardons à l'Église pentecôtiste pour nous sauver, nous sommes parmi les hommes les plus misérables. C'est vrai, parce que nous sommes perdus. C'est juste. Mais si nous regardons à Jésus-Christ, alors nous sommes sauvés, mais par la foi dans son œuvre accomplie. Et ses manières de faire ne font pas beaucoup de différence. Maintenant, comme je l'ai dit à frère Saïs et à frère Ness, pour répondre à vos questions, je ne prends donc parti pour aucun de vous. Et je sais qu'aussi longtemps que vous faites des embarras, vous êtes les deux dans l'erreur, voyez? Parce que j'aimerais mieux me tromper dans ma doctrine et être juste dans mon cœur, plutôt que d'être juste dans ma doctrine et faux dans mon cœur. Je dis encore, après tout, c'est la condition de votre cœur qui importe d'abord. J'ai pris l'habitude en ce qui concerne un homme, peu importe ce qu'il fait et en quoi il diffère d'opinion et ce qu'il dit sur moi, de reconnaître que si dans mon cœur je ne peux pas aimer cet homme autant que j'aime n'importe qui d'autre, non pas seulement par devoir, mais l'aimer vraiment du fond de mon cœur, alors je sais que là-dedans, il y a quelque chose de faux. Voyez-vous, c'est vrai. Il n'y a pas longtemps, est venu un de ses petits frères, un frère de la petite église du Christ. Il se tint là, il m'interrompit et dit, « Cet individu est un démon. Il dit qu'il y a un Saint-Esprit. » Et il dit, « Cela n'existe plus. Seuls les 12 apôtres ont reçu le Saint-Esprit et la guérison divine a seulement été donnée aux 12 apôtres. » Et il continua ainsi pendant une demi-heure. Je dis, « Juste un moment, frère. Je pense que vous devriez me permettre de me défendre, voyez-vous. » Je dis, « Vous affirmez que vous parliez quand la Bible parlait, que vous vous taisiez quand elle se taisait. » Il dit, « C'est ce que nous faisons. » Je dis, « Maintenant, vous dites que seuls les 12 apôtres ont reçu le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il y en avait 120 dans la chambre haute quand le Saint-Esprit descendit. Ah, des femmes même, et tout cela. Et voulez-vous dire que Paul n'avait pas le Saint-Esprit, et cependant il le reçut longtemps après cela. Et vous dites que le don de guérison ne fut donné qu'aux 12 apôtres, et Étienne descendit quelques jours plus tard, et il n'était pas l'un des 12. Il n'était même pas un prédicateur, c'était un diacre. Et il descendit en Samarie, et il chassa les démons. Je dis, ô frère, vous taisez-vous vraiment là où vous devez vous taire? Et quand tout fut fini, je dis, je vous pardonne de m'avoir appelé un démon, parce que vous n'en aviez pas l'intention. Alors, quand ce fut terminé, il vint vers moi et il me dit, frère Branham, il y a une chose que je peux dire, c'est que vous avez l'esprit de Christ. Je dis, alors frère, que suis-je, un démon ou bien de Christ? Mais je vous dis, voyez, c'est parce que cet homme a pu voir que je l'aimais. Qu'importe s'il était en désaccord, en complet désaccord avec moi, ou plutôt contre moi. Je suis un chasseur. J'ai vécu toute ma vie avec des bêtes sauvages. Les gens m'ont dit, comment est-ce que, cette certaine fois, vous le savez, où j'ai dû tuer cet ours avec un couteau, ils me dirent, n'avez-vous pas peur de lui, frère Branham? Je répondis non, car si j'avais eu peur de lui, il m'aurait tué. Mais vous comprenez, vous ne pouvez pas tromper les animaux. Ils savent si vous avez peur d'eux ou non. Si vous avez peur d'un cheval, observez ce que le cheval fera. Il vous donnera un coup de pied. Aussi, si vous avez peur, vous ne pouvez pas le tromper. Vous devez réellement être sans crainte en vous-même. Il en est de même avec Satan. C'est le comportement qu'on doit avoir parmi les hommes qui compte. Vous devez aimer les hommes. Vous ne pouvez pas leur jeter de la poudre aux yeux. Vous devez avoir cet amour-là, ou alors on découvrira quelque part quelles sont vos couleurs. C'est juste, vous devez vraiment aimer les gens, et ils sauront que vous les aimez. Voyez, il y a là quelque chose. Et cet homme appela donc ma femme, et il lui dit, « Frère Branham est-il là ?» Elle répondit non. Il dit, « Eh bien, il y a une chose que je veux lui dire. Je ne suis pas d'accord avec lui dans sa théologie, mais je dis qu'il est un serviteur de Christ. » Et alors, avant que je parte, il m'a envoyé une lettre en me disant, « Je viendrai dès que vous serez de retour. Je désire recevoir ce baptême du Saint-Esprit dont vous parlez. » Ainsi, vous voyez,
Si j'avais eu envie de dire, vous n'êtes rien du tout, votre vieille dénomination n'est pas bonne, vous n'êtes pas bon, vous êtes des démons, oh, je n'aurais jamais gagné cet homme. Et si je lui avais dit que je l'aimais et que je ne le pensais pas du fond de mon cœur, il l'aurait bien su. Tout est là. Vous devez avoir cette pensée dans votre cœur. Et j'éprouve cela quand je m'avance le soir sur l'estrade pour le discernement. Vous voyez, je ne pense pas à cela. Je ne prends seulement aucune nourriture depuis midi et je jeûne, je prie, je reste dans ma chambre parce que Dieu m'a promis qu'il ferait ces choses et ainsi je vais sans l'ombre d'un doute parce qu'il a promis qu'il serait avec moi et qu'il le ferait. Et alors voyez, je sais ce qu'est mon motif, ce qu'est mon objectif pour l'avancement du royaume de Dieu. Qu'un homme aille de ce côté-ci ou de ce côté-là, quelle que soit l'église où il aille, quelle que soit la longueur du temps écoulé depuis qu'il est venu à Christ, peu m'importe. Ce qui compte, c'est ce que j'ai dans mon cœur, voyez? Et qu'importe si nous joignons l'église de Christ. C'est bien, c'est très bien. Quelque église qu'il joigne, cela m'importe peu, pourvu que je gagne son âme à Christ. Amen. C'est cela la chose importante. Aussi je dis, frère Ney, ce n'est pas pour être différent ou par esprit de dispute. Est-il juste de faire cela, frère? Je dis, je voudrais vous expliquer. Et à ce propos, j'aimerais vous dire, à vous mes frères qui êtes ici, maintenant, ne parlez pas de ceci dans votre église, si vous le voulez bien, et accordez-moi une faveur. Laissez-moi simplement être votre frère. Et si je suis dans l'erreur, alors pardonnez-moi. Mais je vais vous expliquer ces choses, puisque ces deux groupes se trouvent ici ce matin, les unitaires et les assemblées de croyances trinitaires. Maintenant, je veux faire cette déclaration. Je veux dire que je crois que les deux côtés sont dans l'erreur aussi longtemps qu'ils se disputent les uns les autres, parce que leurs motifs sont faux. Et aussi longtemps que vos motifs sont faux, qu'importe ce qu'est votre objectif, mais si vos motifs pour atteindre cet objectif sont faux, alors cela n'agira jamais. Cela est vrai. Maintenant, il y a des gens qui m'ont dit, frère Branham, vous êtes un Jésus seul. Je veux dire que c'est une erreur. Je ne suis pas un Jésus seul. Quelqu'un m'a dit, frère Branham, êtes-vous un trinitaire? Non, monsieur, je ne suis pas un trinitaire. Savez-vous ce que je suis? Je suis un chrétien. Le mot trinitaire n'est même pas mentionné dans la Bible, le mot trinité. Et je ne crois pas qu'il y ait trois dieux individuels. Je crois qu'il y a un seul Dieu en trois fonctions, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est exactement pourquoi nous avons été commissionnés de baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Je crois que c'est Dieu condescendant à venir ici-bas. Maintenant, quand Dieu apparut à l'homme pour la première fois, il était sous la forme d'une colonne de feu. Vous croyez cela, n'est-ce pas? N'importe quel lecteur de la Bible et qui sait que la colonne de feu qui était dans le désert, c'était le Logos, c'était l'ange de l'Alliance qui était Christ, parce qu'il a dit qu'il était, je crois que c'était Saint Jean là, il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il était le je suis. Aussi, c'était le Dieu Saint. Même si un homme touche la montagne, il doit mourir. Voyez, très bien. Maintenant, ce même Dieu essayait de revenir dans sa créature qu'il avait créée. Maintenant, il ne pouvait pas aller près d'eux parce qu'ils étaient des pécheurs. Et le sang des chèvres, des brebis, n'enleva jamais les péchés. Nous savons cela. Cela couvrait seulement les péchés. Mais maintenant, ce même Dieu qui était la colonne de feu, il se fit chair par son Fils. Il habita dans un corps appelé le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit, en lui habite la plénitude de la divinité. Et Jésus dit, dans 1 Timothée 3,16, « Et en toute certitude, grand est le mystère de la divinité. » Et s'il pouvait l'appeler grand, alors que ferions-nous? Voyez-vous, grand est le mystère de Dieu. Car Dieu a été manifesté dans la chair, il est apparu aux anges, il a été élevé dans la gloire, et ainsi de suite. Maintenant, et il dit dans 5 Jean 14 à Thomas, « Quand vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Et pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? La Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Maintenant, Dieu ne peut pas être trois personnes, trois dieux, pas plus que Jésus ne peut être son propre Père en un, voyez ? Ainsi, vous comprenez, cela vous rend les deux radicalement faux. Et maintenant, si vous voulez juste noter, il n'y a aucune place. Si nous avons trois dieux, nous sommes des païens. Maintenant, nous savons cela. Comme ce juif me dit un jour que je parlais avec lui, « Lequel de ces trois-là est votre Dieu ? Lequel est votre Dieu ? Le Père ou le Fils ou le Saint-Esprit ? Lequel est-il le vôtre ?» Et je dis, « Pourquoi ? Mais il n'y a pas trois dieux. » Il dit, « Vous ne pouvez pas couper Dieu en trois morceaux et le donner à un juif. » Je dis, « Non, monsieur. » Je dis, « Quand John Ryan fut guéri d'aveuglement, là, à Fowen, vous savez ? » Et ce rabbin là-haut, à Burton Harbor, il dit, vous ne pouvez pas couper Dieu en trois morceaux et le donner à un juif. Je dis, certainement pas. Je dis, rabbin, cela serait-il difficile pour vous de croire au prophète? Il dit non. Je dis, dans Ésaïe 9:6, de qui parle-t-il? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Le rabbin me dit, c'est le Messie. Je dis, alors rabbin, quelle relation le Messie aura-t-il par rapport à Dieu ? Il dit, il sera Dieu. Ah, c'est juste ce que je pensais. Vous voyez, c'est exactement juste, c'est ce qu'il est. Et ainsi je dis, dites-moi maintenant où Jésus a failli pour accomplir exactement ce que le prophète a dit qu'il ferait. Il commença à pleurer et il sortit. Je dis, par cela, John Ryan a repris sa vue. Il était aveugle, mais maintenant il a été guéri. Et il dit, loin de moi l'idée que Dieu a un fils. Je dis, le grand Jéhovah couvrit une femme de son ombre, comme le prophète a dit qu'il le ferait. Il créa une cellule de sang, et par cette cellule de sang, c'est de là que vint le corps de Christ. Regardez dans l'Ancien Testament, rabbin. Je dis, quand un homme allait faire une offrande, il prenait un agneau. Il savait qu'il avait brisé les commandements de Dieu. Aussi, il prenait un agneau. Il confessait ses péchés et l'agneau était tué. Et pendant que ses mains étaient sur l'agneau, il confessait qu'il savait qu'il devait mourir pour ses péchés. Mais l'agneau prenait sa place et la cellule de sang était brisée. Et il tenait le petit agneau par la main jusqu'à ce qu'il tombe. Sa petite vie se répandait et il devenait tout raide. Et alors le prêtre jetait le sang dans le feu sur l'autel d'airain du jugement. Alors, je dis, cet homme, il s'emballait, sachant que l'agneau avait pris sa place, mais il sortait de là avec le même désir qu'il avait quand il entrait, parce qu'il ne pouvait pas enlever les péchés. Dans ce cas-là, l'adorateur, une fois purifié, n'a plus conscience du péché. Mais là, il y avait une offrande faite une fois par année. Mais je dis, mais maintenant, l'adorateur, une fois purifié, n'a plus conscience du péché. Parce que, regardez, rabbin, dans l'hémoglobine, cette petite vie qui commence dans la cellule, qui vient du sexe mâle, dans la femelle, et cela produit l'œuf, une poule peut pondre un œuf, mais si elle n'a pas été avec le coq, il ne veut jamais éclore. Je dis, alors Dieu, le plus grand, qui remplit tout le temps et tout l'espace, il est descendu jusqu'à devenir un petit germe dans le sein d'une femme. Et alors je dis, quand nous sommes sauvés aujourd'hui, Jésus n'était ni juif ni gentil, parce que l'œuf produit seulement la chair, le sang avait la vie. Ainsi nous sommes, la Bible dit que nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Alléluia! Voyez, il n'était ni juif, ni gentil, il était Dieu. Aussi, quand nous venons à l'autel, quand nous mettons nos mains par la foi sur sa tête bénie, et que nous sentons les déchirures et l'agonie du calvaire, que nous confessons nos péchés, que nous avons tort et qu'il est mort à notre place, alors vous voyez, je dis, le sang d'un agneau ne pouvait pas revenir en cela. Le sang dans la cellule était brisé et la vie qui était laissée libre, rompant la cellule de sang de l'agneau, ne pouvait pas revenir sur l'adorateur parce que c'était une vie animale. Et cela ne coïncidait pas avec la vie humaine. Mais cette fois-ci, quand la cellule de sang se rompit, cela n'était pas seulement un homme, c'était la vie de Dieu qui fut rompue et versée. Et alors l'adorateur étend ses mains par la foi sur le Fils de Dieu. Il confesse ses péchés, et pas la vie d'un autre homme, mais la vie de Dieu. revient dans cet homme, c'est-à-dire la vie éternelle. Alléluia. Le mot Zoé, ce qui est traduit par la vie même de Dieu, et il dit qu'il nous donnerait Zoé, la vie éternelle. Et maintenant nous sommes fils et filles de Dieu. Oh, voilà, vous y êtes. Je dis, maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est Dieu qui condescend à venir. Premièrement, il vint. Personne ne pouvait le toucher. Personne ne pouvait le recevoir parce que l'homme avait péché. Alors, il descendit dans un corps pour goûter au péché, pour prendre le péché sur lui. Voyez, la seule chose que Dieu pouvait faire pour être juste était de le faire de cette façon. Par exemple, si ce matin j'avais la juridiction sur cette audience, comme Dieu l'avait sur la race humaine, et que je dis, le premier homme qui regarde ce poteau doit mourir. Et alors, le frère Tomix ici, qui le regarde, oh, maintenant par exemple, je dis, frère Carlson, tu vas mourir pour lui. Cela ne serait pas juste, vous voyez. Je dirais, frère Léo, tu es mon secrétaire, alors va mourir maintenant pour lui à sa place. Ce ne serait pas juste. Billy Paul, mon fils, va mourir pour lui. Cela n'est pas non plus juste. La seule façon d'être juste, c'est que je prenne moi-même sa place. Et c'est ce que Dieu a fait. Comprenez-vous cela? Lui, Dieu, Esprit, il créa, il changea de rôle. Cela devait frapper les gens de penser à un petit Jéhovah. Il aurait pu venir en homme déjà adulte, mais il vint dans une étape sur un tas de fumier. Petit Jéhovah pleurant comme un bébé, petit Jéhovah jouant comme un garçon, petit Jéhovah charpentant comme un ouvrier, petit Jéhovah dans son adolescence, Jéhovah suspendu entre ciel et terre avec les crachats de ses ruisseaux ivres et les crachats de ses soldats sur son visage béni. Jéhovah mourant pour ses enfants, Jéhovah mourant pour les racheter. Oh, pas une autre personne, mais Dieu lui-même. Alléluia. Voyez, Dieu, c'était sa fonction. Pourquoi? Il essayait de revenir dans le cœur de l'homme. Maintenant, nous ne pouvions pas le toucher là, ici. Nous ne pouvions pas le toucher avec notre main. Maintenant, que fit-il par l'offrande de ce corps? Il devint Jéhovah en nous. Nous sommes une partie de lui. Et au jour de la Pentecôte, la colonne de feu éclata et des langues de feu descendirent sur chacun, montrant que Dieu se séparait parmi son Église. Alors, frères, on ne peut que prendre cela ensemble et apporter cela ensemble, tous les frères ensemble. Alors nous avons Jéhovah dans la plénitude quand nous venons tous ensemble. Mais comment pouvons-nous, quand celui-ci parle en langue et il dit qu'il a le baptême et celui-là, et alors gardant cette langue de feu et celui-ci, oh, mettons-nous tous ensemble. Et quand Dieu descendit le jour de la Pentecôte, la Bible dit, des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Et ces langues, comme un feu, des langues, c'était cette colonne de feu, se séparant, se divisant parmi le peuple, afin que nous soyons tous frères. Et ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père, et que le Père est en moi, moi en lui, et vous en moi, et nous sommes un, pas divisés. Maintenant, Jéhovah Dieu, là-haut, il ne pouvait pas toucher la race humaine, à cause de sa propre loi de sainteté, Jéhovah Dieu devint péché pour nous. Il paya le prix afin que le même Jéhovah Dieu puisse venir et vivre en nous. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, Dieu en nous, pas trois dieux, un seul Dieu. Des théologiens, des professeurs sont devenus fous en essayant de résoudre cela. C'est par révélation. Cela doit vous être révélé. Maintenant, quand on arrive au baptême, beaucoup de ces gens, maintenant vous devez faire cela, frère. Ou, c'est comme je disais à frère Saïs et à frère Ness, que l'argument arriva, et beaucoup de vous, savants, ici, seriez plus coupables que moi. Mais j'ai beaucoup étudié sur ce sujet. J'ai lu les pères préniciens, le concile de Nicée, et tous les historiens, et ainsi de suite. Et cette question va au concile de Nicée. Les deux côtés s'effritèrent tellement quand l'Église catholique romaine prit la position extrême trinitaire et les autres devinrent unitaires. Et les deux côtés sortirent. Exactement, c'est tout à fait juste, parce que l'homme voulait mettre quelque chose là-dedans. Mais Vous devez le laisser faire à Dieu, voyez-vous. Ce n'est pas nécessaire pour nous d'essayer de le comprendre. Soyons frères, continuons et laissons Dieu faire la chose qu'il va faire. S'il est infini, et s'il connaît toutes choses, et s'il a prédit la fin dès le commencement, que pouvons-nous-mêmes faire là-dedans? Rien, juste continuer. C'est le chemin. Restons pas, comme je disais la nuit passée, avec notre grand Josué. Maintenant, regardez, s'il y a trois dieux, maintenant, je veux seulement vous montrer combien c'est ridicule. S'il y a trois dieux, alors Jésus était son propre père, mais Jésus ne pouvait pas être son propre père étant un. Et s'ils sont trois, il n'est pas né d'une vierge. Maintenant, combien? Maintenant, je vais dire que c'est Dieu le Père. Voyez-vous? Et ceci, c'est Dieu le Fils. Et ceci, c'est Dieu le Saint-Esprit. Maintenant, à vous ici, frères différents, vous regardez ceci seulement une minute et voyez ce que j'essaye de vous faire comprendre. Je prie pour que Dieu vous le laisse voir. Maintenant, regardez. Vous deux, vous croyez la même chose, mais le diable s'est mis entre vous et il vous a séparé sur cela. C'est exactement la même chose et je vais vous le prouver avec l'aide de Dieu et avec la Bible de Dieu. Et si ce n'est pas la Bible, alors ne le recevez pas, c'est juste. Et maintenant, regardez. Qu'est-ce que c'est que ceci? Dieu le Père, bien. Ainsi, qu'est-ce que c'est que ceci? Dieu le Fils, bien. Qu'est-ce que c'est que ceci? Dieu le Saint-Esprit, bien. Maintenant, arrêtons-nous juste une petite minute. Laissons ces trois de côté. Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit. Oh, je n'aurai pas le temps de faire ceci. Bien, je vais me dépêcher aussi vite que possible, frère. Pardonnez-moi, mes frères, mais je n'ai jamais pu vous parler et je veux faire cela. Et alors, regardez bien. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Maintenant, qui était le Père de Jésus-Christ? Dieu était le Père de Jésus-Christ. Nous croyons tout cela. Est-ce juste? Bien. Maintenant, quand nous prenons Matthieu 28, verset 19, quand Jésus dit « Allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. » 10 jours après, Pierre dit « Repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Il y a une contradiction directe quelque part. Maintenant, ne laissons « Oh, chacun a témoigné et ces choses, voici ce que je crois et je vais juste l'étaler devant vous, frères. » Je ne dis pas cela dehors, sur la chair, mais cela vous regarde dans vos églises. Mais je vais vous montrer ce que je vois des deux côtés pour que le Saint-Esprit vous le révèle. Voyez-vous? Maintenant, Matthieu 28, 19. Et si Matthieu 28, 19 contredit Actes 2, 38, alors il y a une contradiction dans la Bible et elle n'a pas la valeur du papier sur lequel elle serait écrite alors. Maintenant, vous pouvez noter dans Matthieu qu'au 16e chapitre, Jésus donna à Pierre la révélation et il lui donna les clés. Maintenant, rappelez-vous, la Bible n'est pas révélée par la théologie ou par quelque chose d'humain. Cela ne l'est pas. La Bible vous est révélée divinement. C'était une révélation pour commencer. Pourquoi Abel offrit-il un sacrifice plus excellent que Caïn? Cela lui fut révélé que ce n'était pas des pêches ou des pommes, ou des oranges, ou des pommes qui... Oh, si des pommes seraient réalisées aux femmes qu'elles soient nues, nous aurions meilleur temps alors de distribuer des pommes dans les églises de nouveau, frère. Ne pensez-vous pas? Oh, cela a l'air d'être un sacrilège, mais je n'ai pas l'intention de dire cela. Mais cela n'était pas des pommes, de toute façon. Non, monsieur, maintenant, si c'était comme cela, alors cela a été révélé à Abel, que c'était le sang de son père. Ainsi, il offrit du sang parce que c'était une révélation. Toute la chose est bâtie sur cela. Maintenant, regardez. Voici un vieux pécheur, ignorant, même pas assez d'éducation. La Bible dit qu'il était ignorant et sans instruction. Mais il était debout là et Jésus lui posa la question, « Que dites-vous que moi, le Fils de l'homme, je suis ?» Et l'un dit, « Tu es Moïse. » Ils disent que tu es Moïse. L'un dit, « Tu es Jérémie ou les prophètes et ceci et cela. » Il dit, ce n'est pas ma question. Je vous demande, à vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre affirma, il déclara et dit, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus dit, béni es-tu, Simon, fils de Jonas? Maintenant, regardez, la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela. Alléluia! Mais le Père qui est dans les cieux. Maintenant, regardez, maintenant, l'Église catholique dit qu'il bâtit l'Église sur Pierre. C'est faux. L'Église protestante dit qu'il bâtit l'Église sur lui-même. Mais maintenant, regardez, trouvez, voyez si cela est vrai. Il l'a bâti sur la révélation spirituelle de qui il était. Parce qu'il dit, « Béni sois-tu, Simon, fils de Jonas. La chair et le sang ne t'ont pas révélé cela. Je te le dis, tu es Simon. Et sur cette pierre, quelle pierre ? La révélation. Je bâtirai mon Église. Et les portes, les puissances de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Alors, quand Pierre était là, debout, quand Matthieu 28, 19 fut cité, et il se retourna, et 10 jours après, avec cette révélation, il baptisa au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi l'a-t-il fait? Avec la révélation de Dieu, il avait les clés du royaume, mes frères. Maintenant, je pourrais vous blesser pour une minute, un de vos côtés là, mais attendez juste une petite minute, car il n'y a aucune place dans la Bible où une personne fut jamais baptisée au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y a pas un seul endroit dans les Écritures. Et s'il y en a un, produisez-le. Et si vous pouvez trouver cela, n'importe dans l'histoire sacrée, jusqu'à la formation de l'Église catholique, je veux que vous me le montriez. Mais il n'y a aucun endroit. Maintenant, et c'est la vérité. Mais attendez une minute, vous unitaires. Vous ne perdez pas votre temps. Juste une seconde. Maintenant, il n'y a aucun endroit. Si n'importe quel homme peut me montrer un texte des Saintes Écritures où cette cérémonie fut administrée dans la Bible au nom de Père, Fils et Saint-Esprit, vous avez l'obligation de venir et de me le dire où quelqu'un a été baptisé comme cela. Et il y en a qui m'ont dit, « Bien, frère Branham, je prends ce que Jésus a dit, pas ce que Pierre a dit. Ah, s'ils étaient contraires l'un à l'autre, alors que voulons-nous faire ? Si ce n'est pas tout de Dieu, quelle partie de la Bible est injuste ? Tout cela doit coïncider et tout cela doit venir s'ajuster ensemble et seulement par la révélation de Dieu. Vos écoles ne l'enseigneront jamais. C'est par une révélation que vous devez le voir. Alléluia. Ensuite, si ces deux hommes étaient contraires l'un à l'autre, alors quelle sorte de Bible lisons-nous ? Comment est-ce que je sais si Jean 14 est juste ou non ? Comment est-ce que je sais si Jean 3 est juste ou non ? Comment est-ce que je le sais, voyez-vous? Mais la seule façon par laquelle je puisse avoir foi en Dieu, c'est de savoir que cette Bible est juste en totalité, et de croire qu'elle est juste, et de rester avec elle, même si je ne la comprends pas, je la mets quand même en action. Mais quand ces contradictions arrivent, alors je vais devant Dieu pour trouver la réponse. Et frère, c'est le même ange qui me rencontre dans les réunions du soir, c'est le même qui m'a parlé à ce sujet. Maintenant, regardez si c'est comme cela est, maintenant, Matthieu 28, 19, regardons cela seulement pour un moment, maintenant. Et maintenant, je vais prendre acte 2, 38, ici, où Pierre déclare le Seigneur Jésus-Christ, et Matthieu dit, Père, Fils et Saint-Esprit. Maintenant écoutez, il dit, baptisez-les, pas au nom du Père, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Non, il n'a jamais dit cela. Il n'y a pas nom, puis nom, puis nom. Il n'a jamais dit non plus, baptisez-les au nom pluriel du Père, Fils et Saint-Esprit. Parce que cela n'a même pas de sens. Il dit, baptisez-les au nom N-O-M du Père, Fils et Saint-Esprit. Est-ce juste du Père, Fils et Saint-Esprit? La conjonction est, pas des noms, pas au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, pas au nom pluriel du Père, Fils et Saint-Esprit, mais au nom N-O-M singulier du Père, Fils et Saint-Esprit. Maintenant, lequel est le vrai nom dans lequel il faut baptiser? C'est un nom, mais lequel est-ce? Père est-il le nom correct? Fils est-il le nom correct? Ou Saint-Esprit est-il le nom correct? C'est un nom quelque part, est-ce juste? Bien, maintenant je vais vous demander quelque chose. Si le nom, alors si Jésus a dit « baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit », combien croit que Jésus a dit cela? C'est dans les Saintes Écritures, Matthieu 28, 19, au nom du Père, Fils,
conversation entre le frère Branham et le frère Léo Mercier concernant une interruption pour tourner les bandes magnétiques, note de l'éditeur. Maintenant, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant, écoutez donc, frère, le nom du Père n'existe pas parce que Père n'est pas un nom, c'est un titre. Le nom du Fils n'existe pas parce que Fils est un titre. Le nom du Saint-Esprit n'existe pas. Voilà ce qu'il en est. Un matin, je disais cela à un déjeuner de prédicateurs. Une femme, dérangée évidemment, n'importe qui interromprait quelque chose comme cela. Elle dit, « Attendez seulement une minute. Je m'excuse. » Elle dit, « Le Saint-Esprit est un nom propre. » Je dis, « Qu'est-ce qu'il en est à ce sujet ? Je suis un humain, mais mon nom n'est pas humain. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un nom propre. Voilà ce qu'il est. C'est un nom, évidemment, mais ce n'est pas un nom propre. Or, il a dit, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et que Père, Fils ou Saint-Esprit ne sont pas des noms. Alors, quel est le nom? Nous voulons trouver cela. Maintenant, nous pouvons tout le trouver dans un endroit ici, si vous voulez bien le regarder. Et si vous voulez bien être attentif à un petit moment, maintenant. Ou réserver un petit moment à cela, je voulais dire. Donc, notez, Matthieu 28, 19. Maintenant, je ne dis pas que vous l'avez peut-être fait. Quelques-uns de vous, sœurs ou frères, vous avez peut-être pris un livre un jour, regardé à la fin du livre, et vous avez dit, Jean et Marie vécurent heureux pour toujours. Bien, mais qui est ce Jean et cette Marie? Qui est Jean et Marie qui vécurent heureux pour toujours? Il n'y a qu'un moyen pour vous de savoir qui est Jean et Marie. Si c'est une énigme pour vous, revenez au début du livre et lisez le livre entier. Est-ce que c'est juste? Revenez au commencement et lisez-le tout entier et il vous dira qui est Jean et Marie. Bien, si Jésus a dit, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a dit, allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, et que ni Père, ni Fils ou Saint-Esprit ne soient des noms, alors, si c'est une énigme, nous avons meilleur temps de revenir au commencement du livre. Maintenant, revenons au premier chapitre de Matthieu et nous commencerons par là. Parcourez la généalogie jusqu'au 18e verset. Maintenant, regardez maintenant, juste pendant une minute. Je prends ces gens de mon côté, là, côté droit, ils représentent le Père. Ceux du milieu représenteront le Fils et ceux-là représenteront le Saint-Esprit. Maintenant, c'est ici le Père de Jésus-Christ. Est-ce juste? Dieu est le Père de Jésus-Christ. Nous croyons tous cela? Bien, maintenant, Matthieu chapitre 1, verset 18 nous dit « Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Avant leur Marie, sa mère, était fiancée à Joseph, et avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Mais je croyais que Dieu était son Père. Et elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Et Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle sur cet avertissement. Et comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Mais je croyais que Dieu était son Père. Maintenant, a-t-il donc deux pères, mes frères? Il ne le peut pas. Et s'il en avait deux, il serait un enfant bâtard. Et quelle sorte de religion aurions-nous là? Vous devez admettre que Dieu le Père et le Saint-Esprit, c'est le même esprit. Certainement, c'est le même esprit. Maintenant, nous allons voir cela. Et elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Maintenant, tout cela a été fait afin que s'accomplisse, je cite les Écritures, vous prédicateurs, vous les connaissez, alors que je passe sur elles. Ce que le Seigneur a déclaré par le prophète, voici la Vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous.
Est-ce juste? Alors, quel est le nom du Père, Fils et Saint-Esprit? Bien, certainement. Voilà la raison pour laquelle Pierre baptisait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais cela m'est égal que vous baptisiez au nom de la rose de Saron, du lys de la vallée ou de l'étoile du matin. Ce sont aussi des titres. Si votre cœur est juste envers Dieu, il connaît votre cœur. Mais maintenant j'ai exprimé cela. Je dis donc, et maintenant, frère Saïf me dit, et maintenant, bien évidemment, certainement, il semble que c'est unitaire. Bien, il était juste entré pour dire cela. Maintenant je dis, maintenant voici, je vais vous dire quelque chose, voyez-vous, je dis, maintenant je vais vous prouver que ces deux hommes ont dit la même chose. Matthieu dit donc, au nom du Père, est-ce juste? Bien, Pierre dit, au nom du Seigneur. Matthieu 28:19 dit, au nom du Père, et Actes 2:38 dit, au nom du Seigneur. David dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, qui était-ce? Père et Seigneur, c'est le même nom. David dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, voyez-vous, au nom du Père, au nom du Seigneur. Et Matthieu dit, au nom du Fils. Et Pierre dit, au nom de Jésus. Qui est le Fils? Jésus. Au nom du Saint-Esprit, dit Matthieu, et Pierre dit, au nom de Christ, le Logos. Ô Père, Fils, Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? C'est aussi parfait que cela peut l'être, voyez-vous? Frère Saïs, frère unitaire, il dit donc, frère Branham, c'est juste, mais il dit, cela est ceci, je dis, alors ceci est cela, voyez, je dis, si cela est ceci, ceci est cela, alors pourquoi vous disputez-vous? Maintenant, je dis, laissez-moi vous recommander, frère, si je baptise jamais une personne, voici, maintenant, je dis, voici, docteur Ness, quelqu'un a dit il y a un moment que vous, frère, connaissiez docteur Ness, bien, je dis ici, frère, Tommy, ici, il a, je pense qu'il a un diplôme de docteur. Est-ce juste? Très bien. Maintenant, je dis donc, si docteur Ness assis ici, maintenant je dis, si je voulais, maintenant, quand j'amène quelqu'un vers l'eau du baptême pour le baptiser, je le reconnais comme il le fit. Je dis, ce sont des titres qui sont allés à son nom. Et je dis, maintenant, les frères de l'Assemblée ont utilisé les titres et les frères unitaires ont utilisé le nom. Alors je dis, maintenant je vais vous prouver que vous avez tous deux tort et que j'ai raison. Vous savez comment vous devez être. Des hommes sous une telle tension, de temps en temps, vous devez avoir un peu le sens de l'humour afin de les détendre. Un peu, vous savez. Ainsi je dis, je vais vous prouver aux deux que vous avez tort et que c'est moi qui ai raison. Je dis, maintenant, si je voulais regarder frère Ney, je dirais, ou frère X ici, je dirais, X. Maintenant, est-ce que cela sonnerait bien? Non, bien sûr. Et alors, s'il disait, docteur, hé, hey, doc, qu'en pensez-vous? Oh, maintenant, cela sonnerait irrévérencieux, n'est-ce pas? Bien, je dis, c'est de la façon que vous, assemblée, faites cela, voyez? Quand vous, frères de l'assemblée, dites, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous dites simplement, au nom du vénérable docteur. Maintenant, je dis, alors vous, frères unitaires, quand vous baptisez, vous dites, Jésus. Ils n'utilisent pas « Oh, seulement Jésus » ou « Jésus seulement ». Ils utilisent seulement le nom de Jésus. Il y a beaucoup de Jésus, mais il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Il y en a beaucoup qui sont baptisés au nom de Jésus. Je ne suis certainement pas d'accord avec cela. Il n'y a aucune écriture là-dessus. Vous prenez l'original. Regardez si ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Certainement, il est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de Jésus, assurément, et le Christ vient dans les oies. Et je dis, maintenant, j'allais dire la même chose au frère Ness, je dis, est-ce que cela serait juste pour moi de dire, hé hey, Ness, je dis, c'est de cette façon que vous, unitaires, le diriez, ne serait-il pas montrer un manque d'égard et avoir quelque chose d'irrévérencieux pour un homme qui a tellement étudié et qui possède des diplômes, le titre de docteur, et s'il a travaillé pendant des longues études pour l'obtenir, il doit être récompensé par un titre. Alors si je dis, hé hey, doc, je dis, cela ne semblerait-il pas plat pour un prédicateur d'en aborder un autre comme cela,
je dis, c'est justement la façon dont vous le faites, vous, en prenant seulement les titres. Mais je dis, quand j'amène un homme dans l'eau du baptême, je vais là et je commence à lui poser des questions, je lui parle, je lui demande son nom, qui il est, quelle est sa foi. Alors, voici comment je baptise. Je prie et je dis, maintenant, Père, comme tu nous en as donné l'ordre d'aller par le monde entier et de faire des disciples dans toutes les nations, vous, frères, vous savez que c'est selon l'original, voyez-vous. Faites des disciples dans toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé. Alors je dis, sur la base de votre déclaration de foi, sur la confession de vos péchés et sur votre foi dans le Fils de Dieu, je vous baptise, mon frère bien-aimé, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je dis, c'est de cette façon que je baptise. Je reconnais en même temps ces titres, car il était aussi bien Père, Fils et Saint-Esprit, et la raison que Jésus dit qu'il était. Maintenant, regardez. Si ce n'est pas comme cela, vous avez une contradiction dans vos Écritures. Vous avez une contradiction. Et qu'allez-vous faire quand? Et si ce frère bouddhiste se levait et qu'il disait cela, qu'en pensez-vous? Qu'ont-ils dit quand ils m'ont dit là-bas, quand ce frère indien, Vetya Maurice Reed Head, et lui dit, que pensez-vous de Marc 16? Là-dessus, il devint rouge comme un écrevisse. Oh! Vous ne devez pas avoir à rougir. C'est la parole de Dieu. Restez avec elle. Priez seulement. Ayez la révélation. Car il en va toujours ainsi. Voyez? Les deux disent cette chose. Maintenant, pas des titres. Pas cela. Je dis, maintenant, je le reconnais, lui. Il était le Père. Oh, pas un autre Dieu. Il était le Fils. Pas un autre Dieu. Le même Dieu. Ce sont trois fonctions. Dieu dans la paternité, dispensation de la paternité, si vous voulez l'appeler ainsi. Dieu dans la filiation, et il s'agit maintenant du même Dieu en nous maintenant. Je serai avec vous, je, pronom personnel, je serai avec vous. Aussi vous voyez, c'est trois offices, pas trois dieux. Maintenant, frère, si les disciples ne l'ont jamais employé, et ainsi de suite, je ne dis rien contre cela, c'est juste, mais je vous dis que si un homme venait ici et qu'il baptisait au nom de la rose de Saron, du lys de la vallée, de l'étoile du matin, et qu'il croirait que Jésus-Christ soit son sauveur, je dirais, Dieu vous bénisse, frère. Viens, allons-y, c'est vrai, parce que si votre cœur n'est pas droit, vous n'êtes pas droit de toute façon, exactement, et votre cœur doit être droit pour commencer. Et je dis, maintenant regardez, maintenant si j'avais à saluer le frère Ness ici, je dirais, révérend docteur Ness, c'est exact, c'est un prédicateur, il doit être regardé comme un révérend, il a étudié, beaucoup étudié, il a un diplôme et un titre de docteur, aussi doit-il être appelé docteur, c'est son titre, voyez-vous, et son nom est Ness, évidemment. Maintenant je ne dis pas, hé Ness ou hé doc, non, cela ne serait pas bien, je dirais, révérend docteur Ness, voyez, c'est la façon avec laquelle je l'appelle, voyez, c'est ce qu'il est, aussi bien Père, Fils et Saint-Esprit, lui, le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant j'ai dit, si je baptise jamais quelqu'un dans toutes vos églises, c'est de cette façon-là que je baptiserai. Je dis, l'accepteriez-vous, frère Ness? Il me dit, oh, certainement, il a été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Je dis, l'accepteriez-vous, frère Saïs? Il dit, certainement, il a été baptisé au nom de Jésus. Je dis, alors, qu'en est-il avec vous, mes frères? Pourquoi n'acceptez-vous pas cela et abattez ces murs où ces pauvres humains sont? Les unitaires veulent vraiment adorer avec l'assemblée des autres. Ils veulent adorer avec les assemblées de Dieu. Et quant à l'assemblée des assemblées de Dieu, ils veulent s'adorer avec les unitaires. Et il y a des frères qui sont ainsi. Ils sont vraiment comme cela. Mais aussi longtemps que le diable peut faire qu'ils se dressent les uns contre les autres, voyez-vous. Maintenant, comprenez-vous ce que je veux dire, frère? Je voudrais vous amener à un seul but, à cette seule chose, Jésus-Christ.
est l'unité du corps du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qu'est mon but. Maintenant, je ne dis rien concernant eau. Et vous n'êtes pas baptisé au nom de Jésus, vous irez en enfer. Non, cela n'a donc pas de sens. Je vais vous dire ce qu'il arriva l'autre jour. J'étais au Texas avant de partir. Et les frères ici sont témoins de cela. L'église unitaire, 72 églises, avaient pris la responsabilité de mes réunions. Et je fis venir frère Petty, le frère des assemblées de Dieu, sur l'estrade cette nuit-là. Vous savez donc que c'est la vérité. C'est un merveilleux frère. C'est le frère Petty, s'il y en a qui le connaissent, de Beaumont, Texas. Il était un des meilleurs hommes que j'ai jamais rencontrés. Et sa femme est une catholique convertie. Une vraie femme sainte. Lui est un véritable homme de Dieu. Dites-moi qui est un meilleur homme que Roy Vitt des Assemblées de Dieu. Citez-moi n'importe lequel de ces hommes. Regardez, ici, tous ces frères que je connais ici, le frère de l'église de Philadelphie ici, et cet homme des Assemblées de Dieu. Et puis, qui sont de meilleures personnes? Dites-moi quel est l'homme qui pourrait être meilleur que le frère Jack Moore. Dites-le-moi. Il est ce qu'ils appellent. Oh, ils sont des leurs. Ce n'est pas un intransigeant. Vous trouvez des intransigeants des deux côtés. Et c'est là le point de mire des gens. Et c'est là où le diable traque ses batteries. Mais ce sont tous des hommes de Dieu. Dieu leur a donné le Saint-Esprit. Et si ce n'était pas pour et par la grâce de Dieu, nous aurions tous continué à avoir ces embarras et ces agitations et tout le reste. C'est parfaitement vrai. Mais la grâce de Dieu nous lie ensemble. Cela n'est pas étonnant que nous puissions chanter « Béni soit le lien qui nous unit nos cœurs dans l'amour chrétien. Voilà ce dont nous avons besoin. » Alors, vous savez quoi? Le surveillant général de l'église m'a pas dit. Saviez-vous ce que vous aviez fait le soir passé? C'était mon deuxième soir là-bas. Je dis, quoi? Je dis, nous avons eu une réunion formidable. Il dit, vous aviez un homme qui est monté à votre chair et c'était un pêcheur. Je dis, je ne le savais pas. Qui était-ce? Il me dit, oh, ce monsieur Petit. Je dis, oh, un pêcheur? Pourquoi? Je dis, c'est un prédicateur des assemblées de Dieu, frère. Il dit, oui. Mais c'est quand même un pécheur parce qu'il n'a pas été baptisé correctement. Et je dis, frère, priez-moi donc, dites-moi donc. Je dis, il a le Saint-Esprit. Il dit, frère Branham, qu'a dit Pierre? Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Ainsi, vos péchés ne peuvent pas être remis avant que vous soyez baptisés au nom de Jésus. Je dis, est-ce la formule, mon frère? Il me dit, c'est la formule. Je dis, alors Dieu a dû bouleverser ses plans dans Actes chapitre 10, verset 49 ou 44, car il est écrit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et ils n'avaient jamais été baptisés. Alors Dieu a donné le Saint-Esprit à des gens qui n'étaient même pas convertis. Je dis, où au monde, où en êtes-vous donc? Il me dit, vous savez ce que nous allons faire, frère Branham? Il dit, nous allons dessiner un petit cercle et nous vous dessinerons en dehors de notre cercle. Alors je dis, j'en dessinerai un autre et je vous redessinerai à l'intérieur de mon cercle. Je dis, vous ne pouvez pas me mettre dehors parce que je vous aime. Voyez, vous ne pouvez simplement pas le faire. Je dis, il y a trop de vos frères qui m'aiment et qui croient en moi. Je dis, ils viendront de toute façon à mes réunions. Je dis, ils viendront et vous ne pouvez pas me mettre à la porte. Et si vous me faites partir, je vais vous remettre à l'intérieur. Je dis, quand vous faites un cercle pour m'exclure, Dieu, par sa grâce, me laissera en tracer un autre pour vous retirer à l'intérieur. C'est juste. Il les attire de nouveau. Frère, oh, dans le nom de Christ, est-ce que je peux dire ceci? Je sais que je prends beaucoup de temps ici. C'est presque le moment de terminer, je pense. Mais laissez-moi seulement dire ceci. Et je dis à cet homme, je dis, j'irai avec vous aussi longtemps que vous prêcherez les saintes écritures, que vous aurez de l'amour, et que vous croirez que, et que vous prêcherez, et que vous direz que vous baptisiez les gens, mais pas au nom de Jésus. Jésus seul. Non, monsieur. Je ne serai certainement pas d'accord avec cela.
parce que je connais plusieurs Jésus, je les connais en Afrique et dans différents endroits, des personnes nommées Jésus. Mais si vous voulez employer le terme de « notre Seigneur Jésus-Christ », j'irai avec vous sur cela. C'est bien, je resterai près de vous, mais je pense que vous devriez mettre Père, Fils et Saint-Esprit d'abord pour que ce soit juste. J'ai dit « je pense que vous devriez le faire ». Mais il dit « oh non, 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 c'est le retour à la Trinité ». Je dis « ce n'est pas une Trinité, c'est un Dieu dans trois fonctions ». Pas une Trinité, pas trois dieux. Nous n'avons pas trois dieux, certainement pas. Il n'y a rien comme cela. Cela n'a pas été enseigné dans la Bible. Et il n'y a qu'un seul Dieu. Écoute, ô Israël, je suis le Seigneur, ton Dieu, un Dieu. Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Certainement, il est un Dieu, pas trois. C'est une version catholique. Et cela se transmet des catholiques aux luthériens et ainsi de suite. Et parmi le peuple, la croyance est généralement que nous avons trois dieux. Voilà, vous ne pourrez jamais. Cet évangile n'ira jamais aux juifs. Je l'ai prophétisé là-bas l'autre matin à un missionnaire pour les juifs. Vous ne ferez jamais accepter une trinité de Dieu à un juif. Vous ne pourrez jamais le faire prendre pour vrai ce qui ne l'est pas. Car il a plus de sens que cela. Voyez, il connaît mieux la Bible que cela. Mais il n'a jamais été une divinité en trois personnes, et vous ne pourrez jamais l'apporter ainsi à un juif. Mais si vous lui faites savoir que c'est le même Jéhovah, il le recevra directement maintenant. C'est vrai, c'est cela, voyez, comprenez-vous? Et je crois tout cela, comme Joseph a dit, « Mes frères, ne soyez pas fâchés contre vous-mêmes, car c'est Dieu qui a fait cela, vous voyez, en vue d'une chose. » Afin que cela puisse être réservé pour ce temps-ci. C'est tout. Parce que notre âge des gentils est à peu près terminé. Je crois cela de tout mon cœur. Et quant à vous aussi, mes frères, j'essaye de parvenir à quelque chose. Que ce groupe d'hommes qui a le baptême du Saint-Esprit, ayant à sa tête aimé MacPherson, qu'a-t-elle donc fait cette dernière? Tout d'abord, elle était unitaire, je crois. Ensuite, elle sortit et elle se mit à la tête d'une assemblée. Et alors, elle sortit, elle s'organisa différemment ici. Et il n'y a pas longtemps, elle forma un petit groupe. J'étais assis dans la réunion de O.L. Yeagers. Maintenant, nous connaissons tous O.L. Yeagers. Son père aida à fonder le Conseil général des Assemblées de Dieu. Maintenant, O.L. est un grand homme. C'est un grand prédicateur. Et il n'y a pas longtemps, je lui ai dit, « Frère Yeagers, si je pouvais prêcher comme vous le faites, je n'aurais même jamais un service de guérison. » Mais, vous savez, il avait eu tout ce sang et ce vin et toutes ces histoires semblables quand il débuta là-bas. « Excusez-moi si je vous blesse, mes frères, à ce sujet. C'est bien, Dieu peut changer le sang en vin ou l'huile en ce qu'il veut, mais cela ne pardonne pas les péchés. Non, monsieur, non, monsieur. » Non, certainement pas. Le sang de Jésus-Christ ne perdra jamais sa puissance jusqu'à ce que l'Église de Dieu rachetée puisse être sauvée pour ne plus jamais pécher. Je dis, frère Yeagers, je le pris en main, je l'appelais et j'étais avec les hommes d'affaires chrétiens. Je dis, frère Owell, il dit, où au monde, où en êtes-vous? Où êtes-vous? J'étais dans ce petit motel bon marché là-bas. Il me dit, est-ce que vous voulez me dire qu'ils vous ont mis là-bas? Je dis, c'était mon désir. Et quand je suis venu chez vous, il dit, qu'avez-vous fait? Vous m'avez mis là-bas, à l'hôtel Statler, et je devais me tenir dans le coin. Vous m'avez fait asseoir à une table où je ne savais pas quel couteau employer. Je ne savais rien, vous savez. Je descendis là-bas, il fallait 100 vestons croisés, et il voulait me mettre à la porte. Je dis, je ne savais pas comment me comporter. Il dit, je vous conduirai là-bas s'ils sont trop pauvres pour le faire. Je dis, non, monsieur, je dis, ce que j'aimerais, c'est prendre un steak avec vous, si vous voulez bien le payer. Il me dit, très bien, alors nous sommes allés à un petit endroit et nous nous sommes assis. Je dis, frère Yeagers, j'admire vraiment votre, et c'est un de mes très chers amis, un précieux frère. Et j'avais sa petite brochure où il y avait cette femme qui était justement venue d'outre-mer et qui avait du sang dans ses mains et toutes ces choses. Aussi, je voulais lui en parler. Je voulais seulement qu'il le démente une fois qu'il renie cela. Et alors je l'avais directement sur mon petit papier, vous savez. Je dis, j'ai remarqué dans quelle direction vous alliez de l'avant. vous allez avoir un grand réveil. Cela commença parce que les hommes d'affaires m'avaient fait venir, évidemment. Regardez comme les gens sauraient pour voir si c'est le Saint-Esprit qui peut révéler sur l'estrade. Ne peut-il pas aussi dire ce qui se passe à d'autres endroits, mes frères? Je peux vous dire mot à mot, et vous le prouvez par le frère Carlson et ce frère ici. Hier, j'étais assis dans une réunion et je dis à ses frères ce qui se passerait ici même ce matin. C'est vrai, parfaitement, voyez, parce que le Saint-Esprit m'a révélé et m'a dit, tiens-toi près de la fenêtre. Je regardais la fenêtre et il me montra exactement ceci. Je dis, maintenant frère, eh bien, mais il devrait le savoir. Ici, il n'y a pas longtemps, un homme se leva ici au château K. Il dit, frère Branham est un prophète. Je ne prétends pas moi-même être un prophète, mais il dit, frère Branham est un prophète quand il est sous l'esprit de discernement. Mais dit-il, oh, sa doctrine, c'est du poison. Faites-y attention. Je pensais d'un homme instruit qu'il dirait quelque chose de bien, mais dire une chose comme celle-là, qu'est-ce que cela veut dire, le mot prophète? C'est un interprète divin de la parole. La parole du Seigneur vient au prophète. Mais simplement, ce n'est ni ceci ni cela, je dis. Mais de toute façon, frère Jäger, j'ai vu quelque chose concernant cette femme qui a du sang dans ses mains. Oh, dit-il, frère Branham, c'est le plus phénoménal que vous n'ayez jamais vu. Je dis, frère Jägers, je vous aime. Premièrement, je veux que vous mettiez ma main dans la mienne. Ma main dans la vôtre, pardon. Et que maintenant nous disions que nous sommes frères. Il me dit, certainement, mais que se passe-t-il donc? Je dis, vous êtes un des plus puissants prédicateurs que je connaisse. Quel instrument vous êtes pour Dieu? Il me dit, merci frère Branham, vous êtes vraiment humble. Je dis, je ne dis pas cela pour être humble. Je dis cela parce que je le crois. Vous êtes un serviteur de Dieu. Je dis, frère Jäger, si vous ne devriez pas trop, vous n'avez pas de balance dans les Écritures pour les choses dont vous parlez. Vous vous basez, et voici ce qui se passe parmi beaucoup d'entre vous, assemblés de Dieu et autres hommes. Vous n'avez que des services de guérison. Je ne vous blâme pas pour cela. Il y a tant d'appels, et Tommy ici est un bon frère, et nous savons comment il se tient solidement. Mais il y a eu tant aujourd'hui de choses sous le nom de guérison divine que cela ne m'étonne pas que vous ne vouliez pas répandre cela devant une assemblée, parce que dans la ville, oh, ils viennent, ils exploitent les gens, ils s'en vont. Et qu'est-ce qu'ils ont? Ne donnez pas aux gens un peu plus que vous leur donnez de l'estrade dans votre propre chair. Et vous avez raison, frère, je vous le dis, vous avez raison. Mais c'est juste comme je lisais l'histoire de Martin Luther. Il nous a dit, ce n'est pas un mystère que Martin Luther puisse s'élever contre l'Église catholique et qu'il se débrouille pour sortir de cela. Vous avez lu son histoire. Mais que Martin Luther puisse tenir sa tête froide au-dessus de tout le fanatisme qui continua son réveil, c'est là que repose le mystère. Et quand l'extraordinaire est manifesté, l'incirconcis le suit, juste comme cela se passait en Égypte. Et cela a toujours eu, oh, cela a créé des troubles dans le pays. Nous savons cela quand nous arrivons au point où Corée s'éleva. Dieu devait le détruire. Mais frère, je ne vous en veux pas. Et frère Jäger s'était assis là essayant de me dire que c'était le Saint-Esprit qui faisait cela. Et il dit, alors j'avais cela sur un papier, je dis, frère Jäger maintenant, je dis, je suis un élève de 7e année et vous êtes un docteur de divinité. Et vous avez étudié pour devenir un homme qui est un théologien. Vous avez été élevé dans une église propre et décente, les assemblées de Dieu. Votre père a aidé à établir cette croyance et vous en êtes sorti. C'est votre affaire. Mais je dis, c'est aussi l'affaire de n'importe quel homme qui veut faire cela. Je ne trace aucune ligne là, mais quand cela arrive à un point qu'un instrument comme vous, qui pourrait gagner des milliers d'âmes pour Christ, bâtit son ministère sous des effets de sensation, je dis, frère Jägers, vous bâtissez une colonne comme cela, et vous n'avez même pas la balance, l'équilibre dans les Écritures pour cela. Cela va tomber après un moment, et vous devez avoir des Écritures pour ce dont vous parlez. Il me dit, mais il y a des Écritures. Je dis, produisez-les. Il dit, bien frère Branham. Il dit, c'est le Saint-Esprit qui fait cela. Je dis, montrez-moi un passage de la Bible où il est dit que le Saint-Esprit est fait sortir du sang de quelqu'un et ainsi de suite. Montrez-le-moi immédiatement. de l'huile qui sortit d'eux. Vous avez dit que l'huile était pour la guérison divine et vous avez dit que le sang de la femme serait le salut des nations. Je dis, si c'est comme cela, alors qu'arriva-t-il au sang du Seigneur Jésus-Christ? Cela prend tout et alors tout ce qui est contre, c'est anti. C'est contre cela, je dis, cela devient une doctrine antichrist. Oh, dit-il, frère Branham, un jour vous apprendrez. Je dis, j'espère ne jamais apprendre comme cela. Maintenant, frère, je dis, je vous aime et vous êtes mon frère. Et je dis, frère Jaegers, après un temps vous irez si loin au bord de l'abîme que vous ne pourrez plus jamais revenir en arrière. Revenez à votre église, revenez, restez avec l'évangile. Et je dis, ne construisez rien sur des sensations. Je dis, maintenant, savez-vous ce qui se passe? Il les fait baptiser dans la vie éternelle. Vous savez quoi? Toutes les fois, dit-il, que vous baptisez, vous les ramenez à l'état de jeune femme ou de jeune homme. Maintenant, cela va. Oh, il dit qu'il ne mourra jamais. Aussi, il est tout à fait à la fin maintenant. Et cette histoire des pilules de vitamines sorties de la mer morte, vous voyez? Mais voilà ce que c'est, frère. Vous commencez avec ces petites sensations, et vous, hommes ici qui avez ces églises, vous laissez quelque chose comme cela entrer dans la ville, et vous savez, le diable est malin. Il saute sur ces choses comme cela. Il fait un tas d'histoires pour cela. Il bouleverse les gens et les réunions, et il cause de la confusion dans l'église. Eh, mais cela ne doit pas être ainsi. Maintenant, qu'importe combien vous êtes juste, voici une chose où nous faillissons et où nous manquons, mes frères. Maintenant, je vais terminer en disant ceci. Qu'importe combien je suis juste, combien je suis scripturaire, combien je connais la Bible de Dieu, si je n'ai pas l'Esprit de Dieu d'amour dans mon cœur pour toute la race humaine, alors je suis dans l'erreur dès le départ. Maintenant, Paul dit dans 1 Corinthiens 13, « Et quand j'aurai la connaissance, voyez-vous, et que je comprendrai tous les mystères de Dieu, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et c'est ceux qui parlent à Dieu et toujours ceux et qui doivent être interprétés. Quand je parlerai en langue, des langues authentiques, des hommes et des anges, et que je n'ai pas la charité, l'amour, cela ne me sert de rien. Aussi, si je connais tous les mystères de Dieu, et que je puisse les dérouler, et que je puisse les faire s'accorder ensemble, si je n'ai pas l'amour, à quoi cela me sert-il? Et quand Jésus a dit, tous les hommes sauront que vous êtes mes disciples, quand les assemblées auront de l'amour pour les unitaires, quand les unitaires auront de l'amour pour les assemblées, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Avoir tort ou avoir raison, aussi longtemps que votre objectif est faux, plutôt le motif est faux, plutôt, alors vous êtes dans l'erreur dès le départ. Est-ce que cela n'est pas vrai? Voyez, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et que je n'ai pas l'amour, je ne suis encore rien, parce que Dieu est amour. Nous savons tous cela. Je crois au parler en langue. Or, quelqu'un a dit, frère Branham ne croit pas à l'évidence du signe initial. J'aimerais éclaircir cela avec vous maintenant, voyez. J'aimerais vous dire ceci. Je crois que quand un homme reçoit Christ, il reçoit une portion du Saint-Esprit. Parce que Jésus le dit dans Matthieu chapitre 12, plutôt le chapitre 5 et le verset 24. Il dit, non, je crois que c'est Saint Jean chapitre 5 verset 24. Il dit, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Maintenant, il n'y a qu'une forme de vie éternelle. Elle ne viendra pas en condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. Maintenant, je crois qu'aucun homme ne peut s'appeler lui-même. C'est Dieu qui doit appeler l'homme. Et si Dieu l'appelle vraiment, il y a beaucoup de gens, nous savons frères, qui sont excités et qui pensent que Dieu les a appelés. Mais leur vie montre bientôt, vous vous en apercevrez. Mais si Dieu vous a appelé, vous serez là et vous resterez là. Et maintenant, ce n'est pas une doctrine baptiste. Vous savez cela, voyez. Je ne crois pas à ces poignées de main et qu'à cause de cela, vous avez l'éternelle sécurité et toutes ces choses. Non, je ne crois pas cela du tout. S'ils veulent le croire, bien, c'est en ordre. Je dis quand même que ce sont mes frères. Et ce matin, si je demandais un morceau de gâteau, maintenant qu'il est bientôt le temps d'aller dîner, j'en mangerais peut-être un aux cerises et vous en prendrez peut-être un aux pommes, mais nous mangeons tous les deux du gâteau, voyez? Ainsi, cela ne fait aucune différence. Aussi longtemps que nous mangeons du gâteau, c'est de cette manière que nous croyons. Si vous voulez être un unitaire, soyez un unitaire. Si vous voulez être quelqu'un des assemblées de Dieu, soyez quelqu'un des assemblées de Dieu. Si vous voulez être quoi que ce soit que vous voulez être, baptiste, presbytérien, soyez un chrétien dans tout cela, voyez? Et sondez les Écritures pour vous-même, mais ne vous chamaillez pas l'un l'autre, parce que toutes ces petites choses, elles forment ensemble comme une queue d'aronde, elles s'imbriquent les unes dans les autres, et cela forme comme une queue d'aronde, et cela vient en un seul endroit là. Et qu'importe ce que nous faisons, combien de miracles nous pouvons accomplir, combien de montagnes nous pouvons déplacer, ou quoi que ce soit, jusqu'à ce que nous arrivions au point de nous aimer. Oh, pas de faire semblant, mais où nous nous aimons les uns les autres, quand nous aimerons tous les frères, n'importe quelle église qu'ils appartiennent, nous aimons ce frère, pas seulement prétendre que nous l'aimons, parce que nous savons que c'est une notion religieuse, mais nous sommes supposés le faire, mais parce que nous le faisons, nous nous aimons l'un l'autre. Oh, avoir un peu de patience, se supportant l'un l'autre. Je crois que c'est Colossiens chapitre 3, environ le verset 9, là quelque part, je pense. Je pourrais peut-être me tromper sur ce passage de la Bible, mais il est dit ceci, après être devenus des chrétiens, nous ne devrions pas envier, voyez. Nous ne pouvons pas avoir la foi quand nous essayons de nous présenter de la sorte et de nous présenter du respect les uns aux autres, voyez. Nous ne pouvons pas seulement faire cela, nous ne pouvons pas avoir la foi ainsi. Nous devons honorer Dieu, honorer-le, croire en mes frères, certainement c'est l'amour, mais les respects et la dignité vont à Dieu. Et cela doit être conduit par la foi et la confiance l'un dans l'autre. Cela, ne vous mentez pas frères l'un à l'autre, voyez, ne vous mentez pas l'un à l'autre. Si je vous dis ce matin, je vous aime, je dois vouloir vous dire cela exactement. Et si ce n'est pas le cas, je suis un hypocrite, c'est exact. Maintenant, frère, dans cette même lancée, maintenant, frère Tommy, j'espère que je n'ai pas été trop long ici. Le frère Tommy a quelque chose à dire, juste dans une minute. Mais je dirais ceci, quand je viens au milieu de vous, je crois ceci, mes frères. Je crois que Dieu notre Père a couvert de son ombre une petite vierge appelée Marie, et il créa en elle une cellule de sang qui devint Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le tabernacle dans lequel Dieu se voila lui-même dans la chair, où il se manifesta au milieu de nous. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Je crois que cette même cellule de sang se brisa au calvaire pour la rémission de nos péchés et que l'Esprit sortit de lui, Christ, et qu'il revint sur l'Église, parce que le Christ, le Saint-Esprit, le Christ, le Logos, était alors en nous. Le Saint-Esprit, par le baptême du Saint-Esprit, nous faisons Christ, se partageant, donnant sa vie à chacun de nous, pour que nous, en tant que groupe de personnes, puissions être ensemble l'Église de Dieu. Et il n'y a pas longtemps, je faisais du cheval. Vous savez, mon père était un cavalier, un grand tireur. Et je montais à cheval. Nous avions nos troupeaux à Arapahoe Valley. Je veux dire à Troublesome River, après la chaîne Arapahoe. Et l'association Airford faisait paître dans cette vallée des troupeaux. Et dans cette vallée, les fermiers, ils ont tellement d'herbes qu'ils peuvent s'élever. Et quand un ranch produira autant qu'une tonne de foin, vous pouvez amener une vache sur le pâturage là-haut, sous East Park. Et vous pouvez faire courir une vache. Et cela fait partie de mon grand terrain de chasse là-haut. Et j'ai fait le fermier pendant des années. Encore maintenant, j'y vais le printemps et l'automne quand j'ai congé et que je peux, et je monte à cheval en faisant le tour avec le rassemblement parce que j'aime monter à cheval. Et tout en haut et en bas du ranch, cette vallée, il y a un groupe de fermiers qui a un droit là-dedans pour faire paître leurs vaches. Et au printemps, à maintes reprises, je les ai aidés à réunir les vaches et à les conduire là-haut. Il y a une clôture à un endroit où elles ne peuvent pas être entraînées sur une propriété privée quand elles descendent par le grand pâturage, et le garde est là et il compte ses vaches quand elles entrent là dans la propriété privée. Et je me suis assis à maintes reprises, durant la journée, heure après heure, regardant passer le troupeau de Monsieur Grime. Il avait la barre de diamant, la nôtre c'était une trace de dinde, etc. Ils avaient le trépied juste sous nous, et Jeffries, et ainsi de suite. Alors quand je mettais ma jambe, comme beaucoup de vous le savent, par-dessus la corne de la selle, je m'asseyais là et je regardais ce gars debout là comptant ses vaches. Je remarquais une chose, il ne faisait pas beaucoup attention à la marque qui était sur elle, mais il y avait une chose qu'il regardait vraiment, c'était l'étiquette du sang. Elle devait être une Air Force pur sang, où elle ne pouvait pas aller derrière cette clôture, mais la marque ne faisait pas grande différence. Je pense que c'est de la même façon qu'il en sera au jour du jugement. Il ne regardera pas notre marque à notre dénomination, mais il cherchera notre étiquette de sang. J'ai commis des fautes, mes frères, et j'ai fait tant de choses qui sont incorrectes. Et peu importe si quand le long de la route, si j'ai apporté quelque chose, que vous ayez entendu quelque chose que j'aurais pu faire remarquer ou dire, et qui soit quelque chose que vous ayez pris comme une offense, de quelque sorte que ce soit, ou si j'ai dit quelque chose ce matin et qui fut une offense pour quelqu'un ici, je vous demande en tant que frère ou sœur chrétien, frères et sœurs, pardonnez-moi. Je n'ai pas eu l'intention de le faire. Je vous ai seulement ouvert mon cœur pour que vous le sachiez. Et s'il y a des baptêmes à faire, vous frères, vous les faites vous-même. Je ne le fais pas. Et si j'ai à le faire, c'est de cette façon que j'en baptiserai un comme cela. Et chacun de vous peut le prendre pour lui, voyez-vous. Aussi, vous pouvez prendre la personne qu'il baptise au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Il y en a d'autres qui baptisent au nom du Seigneur Jésus-Christ aussi. Aussi, si j'en baptise jamais un, mais je ne l'ai encore jamais fait, je baptise seulement dans ma propre église, et c'est pour les gens là-bas, et c'est de la façon que les gens de mon église sont baptisés. Et si vous regardez en arrière, c'est le vieux rituel missionnaire, le vieux rituel de l'église baptiste missionnaire. Et maintenant, et si cela est cela, je voudrais vous dire, je crois à la guérison divine, je crois au baptême du Saint-Esprit, je crois au Saint-Esprit quand il parle en langue, je crois à tous les dons que Dieu donne à son église, je suis pour eux 100%, mais je crois, je ne suis pas du tout pour ces super tromperies de guérison que nous avons aujourd'hui. Je voudrais seulement faire une remarque ici. Il y a quelque temps, il y avait un frère, et ce n'est pas mon précieux frère Tommy X, que je regarde comme un vrai serviteur de Christ. C'était un autre homme dans un autre pays, et dans ce pays, il y avait tout le temps cette super, ou ce super trompeur de guérisseur de Dieu. Super trompeur guérisseur, vous savez comme cela est. Et j'ai reçu une lettre après que un homme de l'église luthérienne, et mon secrétaire ici le sait, nous avons cela dans les classeurs. Je ne voudrais pas nommer cet homme parce que ce n'est pas chrétien, bien que je ne suis pas d'accord avec les idées de cet homme. Mais c'est parfaitement bien, je l'aime, c'est mon frère. Mais cela arrive à un point tel qu'ils doivent simplement avoir toutes sortes de sensations, ou même les simuler. Nous en avons quelque chose comme cela, voyez, et ce n'est pas bon, frère. L'exercice physique ne fait rien du tout. Et ainsi ce pasteur luthérien écrivit, et il dit, vous, évangélistes américains qui venez ici, il dit, avec vos super trompeurs de guérison à tout le monde, et maintenant cela a l'air d'être un petit bouquet pour moi-même, mais Dieu sait que ce n'est pas là mon intention. Mais il dit, quand la petite Déborah Stadclev mourut, ce bébé, et cette mère était restée là-bas, en Californie où ce bébé était mort, il était froid, et on posa ses bébés sur les bras de frère Branham, et lui debout là, priant pour lui, et le bébé commença à pleurer et à se débattre, et il le lui redonna. Et il connaissait aussi le cas mexicain, lequel nous pouvons baser comme déclaration pour ces hommes d'affaires chrétiens. Quelque chose a été déclaré par un docteur. Quand ce petit bébé mexicain mourut ce matin-là à 9h, et c'était 11h ce soir, lorsque le docteur écrivit sa déclaration, frère Espinoza, lequel beaucoup de vous, frères des Assemblées de Dieu, connaissez, c'est lui qui reçut cette déclaration du docteur qu'il était mort. Je vis une vision sur la foule, quand 20 000 personnes catholiques vinrent à Christ à Mexico City. Je dis, ne prenez pas seulement cela, je ne connais pas ce bébé. Je vis une vision là, et Billy était là, essayant avec 30 ou 40 huissiers, il ne pouvait pas tenir cette petite femme en dehors de la ligne de prière avec ce bébé. Elle courait entre leurs jambes et toutes sortes de choses. Aussi, finalement, j'envoyais le frère Jacques Mouramba. Je dis, Vous, frère, allez prier pour lui. Je regardais là-bas et je vis ce petit bébé mexicain. Je dis, attends une minute, amène-moi-le ici. Et quand je mis mes mains sur cette couverture, il avait plu très fort toute la journée. Ils étaient là debout depuis tout le matin et c'est à peu près 11h du soir, ce soir-là. Et je mis mes mains sur le petit bébé et il commença à se débattre, à pousser des cris et ils commencèrent à hurler. Ainsi, ils le descendirent, ils prirent la déclaration, ils allèrent au médecin et le médecin dit, j'ai déclaré que ce bébé était mort ce matin à 9h. Il mourut de pneumonie et ainsi ces choses sont vraies. Il y a des déclarations et il doit y en avoir. Nous devrions toujours être honnêtes et dire la vérité sur toute chose et pas inventer. Ne le faites pas, laissez-le seulement ce que c'est. Dieu n'a pas besoin d'aide sur rien du tout, vous voyez. Il est Dieu, ainsi, il dit maintenant. Mais quand cette petite maman appela Frère Branham en Amérique, pleurant à lui à travers le téléphone, « Venez et ressuscitez mon petit bébé » et que le gouvernement des États-Unis, vous savez, son mari était un aumônier de l'armée américaine en Allemagne, et vous connaissez tous Julius, plusieurs d'entre vous. Il écrivit mon livre « Un prophète visite l'Afrique du Sud ». Et cette pauvre petite mère norvégienne criant du haut de sa voix, disant « Frère Branham, j'étais là, debout, quand ce bébé revint à la vie. » Elle dit « Nous croyons que vous êtes un serviteur du Christ. » Elle dit « Venez, étendez vos mains pour mon propre bébé et il vivra. » Il était mort, il y a juste un moment ou deux de pneumonie. Il avait été malade 4 ou 5 heures et ses hommes étaient là. Ces pentecôtistes autour, hurlant, criant, sautant, disant, Dieu va le ressusciter, Dieu va le ressusciter. Et cet homme continua sa lettre disant, à cause de cela, les Américains, pas l'American Airlines, mais l'armée des États-Unis, allaient me mettre à disposition un jet pour faire le voyage, afin d'être là-bas le jour même. Et je dis, mais avant de venir, laissez-moi trouver la volonté du Seigneur. Ainsi je priais 2 jours. Et ce docteur était si gentil de laisser le bébé étendu là-bas. Alors un matin, je me levais et je commençais à marcher dans la cuisine et je regardais là debout et là-bas une lumière, à peu près la grandeur de cette lumière-là, me tournant autour, dit « Ne touche pas cela, ne place pas tes mains dans cela, car c'est la main du Seigneur. » Je couvris en arrière, je pris le téléphone et je dis « Je ne peux pas venir. » Et ce prédicateur luthérien dit « Pourquoi vous, évangélistes américains, n'attendez-vous pas enfin d'avoir une déclaration claire de Dieu, comme frère Branham le fait toujours? Et alors, vous saurez de quoi vous parlez. Maintenant, c'est cela, frère. Si vous ne voulez pas seulement sauter aux conclusions et attendre et recevoir une décision claire et nette de Dieu. Et tout ceci, ces centres de guérison, cela ne connaît rien du tout de Dieu. Je crois que la guérison divine est basée sur un principe que vous devriez d'abord venir à Dieu et lui donner tout votre cœur et que vos vies soient lavées dans le sang de Jésus-Christ. Alors Dieu ira œuvrer et travailler avec vous et il vous guérira. Oh, juste comme ce frère a dit de cette petite femme pour laquelle il avait prié là-bas, une sainte de Dieu, vous voyez? Ainsi mes frères, dans ma vie j'ai fait beaucoup de fautes, j'ai fait beaucoup de choses qui sont incorrectes. Probablement, si je vis encore longtemps, j'en ferai bien d'autres. Peut-être qu'il y en a qui seront des pierres d'achoppement sur votre chemin. J'espère que vous me le pardonnerez. Je lisais d'Abraham comment les manquements qu'il avait eus et comment les choses qu'il avait faites. Il a douté de Dieu, il mentit concernant sa femme et toutes ces choses. Mais quand le divin commentaire fut écrit dans Romains 4 sur lui, ses fautes ne furent jamais mentionnées. Mais il est dit, Abraham ne chancela jamais par manque de foi à l'égard de Dieu, mais il fut solide. Toutes ses fautes furent oubliées quand le divin commentaire de sa vie fut écrit. Ses insuccès, ses manquements ne furent pas mentionnés. Ses fautes ne furent pas mentionnées. Frère, j'espère que quand mon commentaire sera lu ce jour-là, qu'il effacera aussi les miennes et qu'il n'y pensera pas. J'espère que vous ferez aussi de même à mon égard. Que Dieu vous bénisse. Le docteur Tommy X va au micro pour faire les commentaires suivants, nom de l'éditeur. Frère Tommy X parle. Oh, je pense que nous pouvons dire ce matin, pour résumer tout ce qui a été dit, ces mots, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Dites-les, s'il vous plaît,
Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il y a des hauts et des bas dans la vie de chaque homme. Je ne vais pas commencer à parler, j'ai un message. Et je crois que tout ce qui a été dit et qui aurait dû être dit a été dit. Et mon cœur est remué ce matin. Et je crois que pour plusieurs d'entre nous, bien des choses ont été éclairées et elles le seront pour toujours. Que Dieu fasse de nous de meilleurs hommes et de meilleures femmes. Babe Ruth fut connu comme le roi du home run. Mais saviez-vous que Babe Ruth était aussi le roi du frappé? Il frappa plus de fois qu'il n'a jamais fait de home run. Il frappa 1333. Il ne fit que 880 home runs. Mais chaque fois que Babe Ruth frappa, il retourna à l'abri, il se frotta les mains, il prit la batte et il la pointa vers la clôture et il disait toujours « Je regrette pour ce lanceur là-bas. Oh, il n'y a rien de mal à frapper, mais rappelez-vous, saisissez la batte parce que Christ en moi, l'espérance de la gloire. » Dites-le encore une fois, s'il vous plaît. Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Alléluia. Les disputes et les batailles ne feront jamais le travail. Nous sommes trop près de l'autre côté. Nous avons atteint le point de non-retour. Combien de fois j'ai entendu le capitaine rappelant dans l'avion, nous avons atteint maintenant le point de non-retour. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu une voix venant d'un autre monde qui me parla et qui me dit, fils, tu as atteint le point de non-retour. Cela veut dire que je suis plus près de l'autre côté que je suis du point d'où j'ai commencé. S'il vous plaît, fermez vos yeux, inclinez votre tête et prions. Notre Père Céleste, ce matin, combien nous sommes reconnaissants de pouvoir dire du plus profond de notre cœur et du plus profond de nos âmes, Christ en moi, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ô Jésus, mets tes bras aimants autour de chaque homme et de chaque femme, et que notre vision et que nos vues soient élevées, ô, ô, plus haut que les choses de ce monde, que nous puissions voir Christ, et que les autres puissent voir Christ en nous. Étends tes mains sur chacun de ceux-ci, de tes serviteurs, que nous puissions, sortant de cet endroit ce matin, être déterminés à ne rien voir que Christ seulement. Ici, chacun est le bienvenu parmi les autres. Nous savons que le travail est, oh, il y a un si grand travail à faire, Jésus. Il y a une si grande récolte qui doit mûrir. Oh, aide-nous, Seigneur, que nous joignions nos mains ensemble et que nous parcourions la moisson pour gagner les perdus et ceux qui meurent avant qu'il ne soit trop tard. Je veux que vous leviez vos mains et que simplement vous adoriez le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La congrégation entre dans l'adoration du Seigneur, noble l'éditeur. Levons-nous, s'il vous plaît. Je veux que vous leviez vos mains et que vous chantiez avec moi. Je l'aime. L'aimez-vous ce matin? L'aimez-vous de tout votre cœur? Alors levez vos mains et chantez-le ensemble. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, parce qu'il m'aima le premier et acquit mon salut sur la croix du calvaire. Oh, voulez-vous le fredonner, s'il vous plaît? Vous savez, mes collègues prédicateurs en Argentine, nous avons eu passé 400 000 personnes dans un service. Et nous avons vu les gens des fois et des fois. Je me rappelle, la première après-midi, nous avions plus de 400 000 personnes qui chantaient cela en espagnol. Et je les ai fait le fredonner. Et dehors, il y avait encore plus de 300 000 personnes. Nous avons demandé aux gens à l'intérieur de faire silence, alors que les gens à l'extérieur fredonnaient les paroles de ce chant. Et soudainement, comme ils le chantaient, quelque chose inonda mon âme. Je n'avais jamais connu avant dans ma vie la révélation de Christ en moi jusqu'à ce que j'eus entendu l'écho de 300 000 personnes dehors, juste fredonnant, je l'aime. Oh, à l'extérieur et à l'extérieur dehors ce matin, il y a une grande, majestueuse armée du roi de gloire et il chante, je l'aime. Qui aime-t-il? Qui aimez-vous? Christ, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Fermez vos yeux, levez vos mains, chantez-le de nouveau, tous ensemble. Je l'aime, Je l'aime parce qu'il m'aima le premier et il acquit mon salut sur le bois du calvaire. Oh, si vous l'aimez ce matin, mettez vos bras autour de 3 ou 4 hommes différents et que les femmes fassent la même chose et dites « J'aime le Seigneur Jésus-Christ ». C'est juste, mettez vos bras autour. Et poursuivant cette réponse d'amour, frère avec frère, sœur avec sœur, frère Branham retourne au microphone avec le commentaire suivant, note de l'éditeur. Frère Branham parle. Ah, si je pouvais voir ceci arriver tout autour du monde, je dirais, Seigneur, laisse ton serviteur aller en paix.